jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Je m'étonnerai jamais du « Le midi, j'ai le tour! » Vous êtes à l'émission « En jase » avec Jeff Fortin, Pascal CV dans ce marathon radiophonique pour moi et Pascal. Un petit 6 heures ensemble par semaine, par jour, pas par semaine,
ouais.
Par jour! Alors qu'on fait le matin avec Max Larouche et également... on fait le midi de l'émission On en jase qu'on vous présente depuis le mois de septembre. Ce matin, on a reçu François Legault, premier ministre du Québec en studio à Boulevard. C'est disponible sur le BLVD FM si vous voulez aller réécouter l'intégrale de l'entrevue avec le premier ministre. Également, on vous présentera des extraits là, durant le caucus avec Victor Henriquez. Je sais que si vous écoutiez le point de Max, Max également aura passé l'entrevue. Donc, on a bien apprécié notre expérience avec le premier ministre. 418-971-1021 pour réagir avec nous. En studio, téléchargez l'application BLVD 102.1 sur App Store, Google Play Store, parce que c'est la meilleure façon de nous écouter. Notre directeur de programmation, Pascal Steven Croiteau, me disait, là, j'étais dans mon char, puis je me disais, je peux pas quitter ma voiture parce que c'est François Legault, puis la gang fait une bonne entrevue. Ben, c'est vrai que j'ai ouvert mon app.
C'est bien
puis
fait.
Je me suis rendu à mon bureau.
Peu importe où vous allez être pendant le temps des fêtes. Mais en même temps, si vous êtes dans le sud, vous décidez de décrocher, on vous en tient pas rigueur.
Ben
là.
Non, du tout, du tout, du tout. Et twitch.tv/BLVD/FM dans notre programmation régulière, bien évidemment. C'est le retour de Gravel qui va suivre à 14h avec Denis, Véro et Audrey. Une reprise de Marceau le soir à 18h. Pour faire roue demain matin, c'est moi, Pascal, et Max Larouche dans Marceau le matin. Au programme aujourd'hui, Victor Henriquez dans son caucus.
Oui.
Christine Saint-Pierre, l'ex-ministre libérale, communication, culture, conditions féminines aux alentours de 12h45, va nous parler. Ça fait à peu près une semaine et demie que Christine Saint-Pierre crie sur tous les toits. Faut qu'il démissionne Pablo Rodriguez, mais là, ça va être chose faite. Alors, on va parler avec elle et comment elle voit la prochaine course à la chefferie. Et on va avoir Lambert Drainville aux alentours de 13h20 qui va nous faire ses fleurs et ses prix citron de la dernière session parlementaire. Alors, bien hâte de voir à qui il va décerner les prix citron. Mais d'après moi, Pablo Rodriguez va en recevoir un petit.
Ah
un
oui,
petit
assurément.
Grand citron. D'ailleurs, Pascal, rappelle-nous là, tout ce qui arrive dans le dossier. Pablo Rodriguez et Parti libéral du Québec.
Oui, bien écoute, c'est une nouvelle de plus, mais en même temps, là, je veux dire, on vient peut-être à la fin de cette saga pour Pablo Rodriguez. Par contre, c'est le début d'un peut-être renouvellement pour les libéraux. Écoute, on dirait le jour de la marmotte. Chose certaine, décision qui est prise, le chef libéral Pablo Rodriguez va démissionner dans quelques heures. Il y avait rencontre avec son équipe qui était prévue ce matin. On l'a déplacé à 14h. Et suite à cette rencontre, là, il y aura annonce dans les médias, mais ce qui est coulé officiellement, c'est qu'il va quitter. Quitter la politique, quitter donc le Parti libéral du Québec. Il sera en train de préparer sa sortie avec des proches conseillers pour bien le faire. On peut avoir plusieurs opinions là-dedans, puis on en parlera avec Victor Henriquez. Certains éprouvent un genre de pitié, d'autres éprouvent un genre de soupir de soulagement, pour d'autres un soupir aussi d'exaspération. Toutes les émotions sont mélangées quant à cette saga-là qui nous a tenus en haleine durant plusieurs semaines, qui est loin d'être terminée. Au niveau, par contre, de tout ce qui est Marois Risky, ce qui s'est passé dans le parti, qui a mal fait, Pablo Rodriguez va pas colmater la fuite, en fait, d'eau usée là, qui sortait des tuyaux du Parti libéral. Ce matin, on l'a dit, on a eu François Legault en entrevue, on en reparlera, mais il n'exclut pas d'exproprier RCR pour la gestion du Mont-Sainte-Anne. Il attend simplement d'avoir un papier concret d'investisseur qui va mettre plus de 50 millions de dollars ou le 50 millions de dollars qu'RCR était prêt à mettre au moment où ça arrive, que c'est concret et que c'est quelqu'un qui a une expérience quelconque. Et voilà, on passe à autre chose et on va certainement s'occuper du Mont-Sainte-Anne qu'il décrit comme étant un bijou. Développement éolien, il y a Hydro-Québec qui est accusé de travailler à l'envers. Donc, Hydro-Québec a balayé l'idée d'un BAP générique. Là. Mm-hmm. On est encore sur le même cap, celui de développement accéléré de la filière d'éolienne d'ici 2035. On est comme passé dans les voitures électriques d'ici 2035 à l'éolien d'ici 2035.
Bien, au moins, là, je te dirais qu'on fait un cycle normal en produisant de l'électricité avant de vouloir en dépenser à grands coups de voitures électriques. Donc, Au moins, on est de retour dans une logique, mais de la façon qu'on veut développer ça de façon accélérée, autrement dit, ça, c'est sûr que chez certaines communautés, ça va venir créer des désagréments.
Là. C'est pas facile. Bon, c'est sûr, c'est connu depuis 2 ans. Il y avait le plan d'action 2035 qui avait été publié, qui avait été jasé aussi. Là, on perçoit un peu l'énergie éolienne comme étant complémentaire à l'hydroélectricité. On veut développer aussi cette technique-là parce qu'on sait, on est en manque, étrangement, là, d'électricité à bien des égards maintenant au Québec, tellement qu'on demande de faire un effort. Puis il y a des entreprises qui ferment parce qu'ils disent, bon, ben pour respecter telle chose et telle chose, c'est le cas du relais. Oui. La montagne, le relais, ici, cette semaine, a fermé pour quelques heures en disant, ben nous, on va participer à ce courant-là qui est de l'économie d'électricité.
Cet effort d'économie d'électricité, alors que c'est notre matière première, donc on ne devrait pas normalement en manquer si on avait fait un plan de développement là, sensé dans les dernières années.
Puis avant de passer à Victor Henriquez pour le caucus, Henriquez, je vais terminer avec un recours collectif qui a été autorisé contre Salvatore. Donc, on parle de frais cachés. Bon, c'est réglé, mais quand même, recours collectif qui en suit. On a affiché un prix inférieur à la facture qui était réellement exigée. Et ça, c'est interdit au Québec. Dès 2010, ça se passait. Salvatore est accusé d'en avoir fait l'usage. On a rectifié le tir depuis. C'est pour ça que je vous dis que c'est réglé, mais il y a quand même autorisation pour une action collective. Un recours collectif, ça a été déposé il y a plus d'un an. Le 9 décembre dernier, la Cour supérieure a dit oui, voilà, il faut aller de l'avant avec tout ça. Il y a une entente qui est intervenue entre les parties le 1er décembre 2025. Par contre, c'est ce qu'on lit dans le jugement.
On passe au caucus. Le caucus.
Le caucus. 102-1. Voici Antonin Iaccarini.
Et non, comme vous le savez, pour cette semaine du 15 décembre et celle du 5 janvier, ce sera Victor Henriquez qui va être avec nous. Victor, comment vas-tu?
Ça va bien. Vous autres, comment ça va?
Ça va super bien. Ça va mieux qu'un Pablo Rodriguez, ça, c'est certain. Quoique ça fait un mois qu'on dit ceci, Pablo va quitter. Hey Victor, je viens de recevoir ça du collègue Max Larouche. Ça vient de sortir du côté des médias de Québécois. Intention de vote, nouveau sondage. 35 % pour le PQ en diminution de 4 % 20 % pour le Parti libéral du Québec, donc retour à la case départ. La CAQ gagne 1 % 19 % Le Parti conservateur, qu'on disait qu'on devait surveiller, 16 % en hausse de 3 % Québec solidaire gagne un petit % à 9 % Je pense que ce sondage-là vient donner le dernier clou dans le cercueil de Pablo Rodriguez. Quand tu reviens à case départ et que tu as élu un nouveau chef que tu pensais qu'il t'amènerait à la conquête, c'est tout simplement terminé pour M. Rodriguez.
Alors, tu as bien raison. Sondage super intéressant. Je suis content de savoir que la boule de cristal, elle fonctionne encore bien. Hein. On a parlé des conservateurs qui risquaient de monter parce que justement, quand les libéraux baissent, les conservateurs risquent de monter. Autoroute Éric Duhaime, pas tout le monde est malheureux à l'extérieur du Parti libéral du Québec. Moi, je suis sûr que PSPP, François Legault et Éric Duhaime auraient aimé que Pablo Rodriguez reste un peu plus longtemps, que le calvaire des libéraux se poursuive et que ce soit compliqué pour eux pendant une couple de mois parce que là, ils vont avoir une chance de se reconstruire. Est-ce que ça va marcher, ça, là-dessus? On regardera la boule de cristal un peu plus tard dans la conversation. Mais il y a du monde que ça aidait beaucoup en cette fin de session de voir Pablo Rodriguez et les libéraux dans l'embarras. Le sondage y parle. Moi, ce que le sondage me dit aussi, c'est attention au PQ, 4 points de perte, c'est beaucoup. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que le vote, c'est un vote d'affection envers Paul Saint-Pierre Plamondon depuis quelques années. Les péquistes sont en avance à cause de ça. Mais ça veut aussi dire que les Québécois, comme M. Legault l'a dit dans plusieurs de ses entrevues, puis vous l'a dit également ce matin, les Québécois ne veulent pas de référendum, et ça risque de revenir sur la table, cette discussion-là va se refaire. Alors, je trouve ça super intéressant, puis c'est le fun de savoir juste avant les fêtes de quoi on va jaser autour de la danse.
Ouais. Est-ce que c'est un message aussi envers Paul Saint-Pierre Plamondon, parce que ce sondage-là est à peu près une semaine et demie après tout ce qui s'est produit en culture, cette fameuse vacuité intellectuelle. Donc, est-ce que les gens se sont dit, écoute, Paul Saint-Pierre Plamondon, il nous prend un petit peu trop de haut, ça me tente peut-être moins de voter pour lui?
L'arrogance est le plus grand ennemi de la réussite. Et ça, là-dessus, là, Paul Saint-Pierre-Plamondon, c'est pas de sa faute, mais ça fait 3 ans qu'il est en avance dans tous les sondages. Alors, c'est normal qu'à un moment donné, on sent un certain confort, puis on se dit, hey, à chaque fois, lui dit quelque chose, ça sort bien. Comment ça se fait? Ah, ben, je peux aller un petit peu plus loin, et un petit peu plus loin, et un petit peu plus loin, puis à un moment donné, tu te retrouves ben, trop loin, et tu perds pied, et tu tombes. Et la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il tombe au mois de décembre alors que le scandale chez les libéraux fait rage et que probablement que les gens s'en souviendront plus au mois de février. Parce que le temps étant ce qu'il est, honnêtement, on a beaucoup d'autres choses à s'occuper dans nos vies que de penser à ça constamment. Nous qui suivons l'actualité tous les jours, on va s'en rappeler. Mais monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, je ne suis pas sûr qu'ils vont s'en rappeler. C'est mieux de faire ces erreurs-là en décembre, à 11 mois d'une élection, que de les faire à 3 semaines du vote.
Oui, mais ça a aussi eu l'effet de cacher quelques frasques de d'autres partis. Puis moi, c'est ça qui peut-être me dérange en termes de commentatrice de l'actualité, parce que je me dis, ah, les gens sont tellement fâchés quand ils en oublient une ou qu'ils se font avoir à une élection ou ils se font pas dire les vraies choses avec transparence et autres. Puis quand vient une éclipse médiatique comme celle-là, c'est vrai qu'après, les autres partis paraissent mieux. Mais il y a des choses qui ont été décriées dans le passé.
Ah, t'as raison. C'est sûr que ça, c'est le grand risque qu'on vit avec notre époque, hein, parce qu'on est dans une époque de surinformation. On n'a jamais eu autant d'informations, on n'a jamais eu autant d'options pour s'informer. On reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de stocks et on doit faire la différence entre ce qui nous intéresse et ce qui nous intéresse moins. Puis comme tout le monde, on est un peu pris dans ces grandes éclipses médiatiques. Moi, je me préparais à vous parler ce matin, puis je me disais, hey, qu'est-ce qui se passe d'autre que Pablo Rodriguez qui s'en va? Parce qu'on est tous pris là-dedans, on regarde, on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre chose. Mais pour les gens qui nous écoutent, c'est super important aussi de garder en mémoire ces choses-là, puis de s'en rappeler quand on va voter. Parce que les gouvernements qu'on choisit, on veut qu'ils nous ressemblent. Et si on a pas eu, si on n'a pas aimé quelque chose, c'est important de s'en rappeler. C'est facile d'être bon pendant un mois électoral, hein. C'est beaucoup plus dur d'être bon pendant les 4 années qui suivent.
En effet, puis on l'a vu avec la CAQ que c'est beaucoup plus difficile d'être bon pendant les 4 années qui suivent. Et ça m'amène à parler de leurs résultats. Parce que là, on sent François Legault plus en selle que jamais, fait une tournée médiatique. Je vais être là, parle de la prochaine campagne électorale, parle des projets de la CAQ, est content de ses résultats avec les médecins. Mais n'empêche qu'on est passé seulement de 18 à 19 % avec une crise majeure au PLQ. Ça va pas si bien que ça pour François Legault encore, là.
Non, ça ne va pas si bien que ça en termes de chiffres, mais vous l'avez vu ce matin, comment vous l'avez senti, vous? Je vais me permettre de vous retourner la question
Ouais.
parce que moi, ça fait plusieurs entrevues que je vois, j'ai écouté la vôtre, j'en écoute d'autres, puis je trouve que j'ai l'impression de retrouver le François Legault post-pandémie. Il a l'air de bonne humeur, il a l'air d'être bien dans ce qu'il fait, je le sens à l'aise avec ses prises de position aussi. Je ne sais pas vous, comment vous l'avez senti ce matin?
Oui, au niveau du contenant, tu as raison. Que, bon, il est arrivé ici, il était généreux quand même, de s'être déplacé, de nous offrir en 15 minutes. Il est en grande tournée après peut-être 20 entrevues. Il est encore en train d'en faire le 17 décembre. Poli, capable de nous répondre, capable d'être en désaccord avec nos propos puis d'expliquer pourquoi. Ça, c'est le fun aussi d'avoir une réponse concrète des fois quand on pose une question. Quelques cassettes. Bon, de politicien, on est habitué quand même, c'est normal. On essaie de gruger le temps. Cependant, j'aurais aimé plus de, pas mea culpa, mais plus de reconnaissance des erreurs, plus de reconnaissance de peut-être prendre un petit peu trop de place dans son parti, malgré qu'il soit leader aux dépens de ses ministres. J'ai posé une question aussi, puis j'aurais adoré avoir plus de temps avec lui là-dessus. C'est qui vos poulains, M. Legault? Ben, ça a l'air que c'est tout le monde, puis on fait confiance à tout le monde, mais je le vois pas, moi. Je trouve pas que ça se traduit. Il était pas d'accord avec moi, il me l'a dit, mais.
Ben ça, tu vois, je trouve ça intéressant parce que quand on conseille les gens avant des entrevues comme celle-là, une des choses qu'on leur dit, c'est faites attention à pas trop vous autocritiquer. Parce que les gens vont se rappeler de certaines parties de ton entrevue, hein. Ils ne se rappelleront pas de tout ce que tu as dit. Alors, c'est toujours un risque quand tu t'autocritiques. Si tu le fais trop souvent, les gens retiennent que finalement, toi-même, tu dis que tu n'as pas été bon. Alors, ça, là-dessus, c'est intéressant parce que dans ta perception, je la comprends entièrement, Pascal, parce qu'on veut cette authenticité-là. En même temps, je le sens prudent sur ces choses-là. Je trouve qu'il a été bien coaché. Je trouve que moi, ce que j'ai vu comme différence, c'est le contenant. Parce que le contenu de François Legault, il a changé. Oui, il est plus à droite dans ses politiques, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a d'énormes différences. Et c'est peut-être ça aussi qui explique, Jeff, ce que tu me disais, qu'il n'a pas nécessairement monté dans les sondages énormément. Le contenu ne change pas tant, mais le contenant a l'air plus à l'aise. Moi, François Legault, en août dernier, je m'inquiétais pour lui. Je me disais, il n'a pas l'air bien, il n'a pas l'air en forme, il n'a pas l'air heureux lui-même d'être là. Il avait l'air en maudit tout le temps. Donc, tu sais, je le sens beaucoup plus à l'aise à ce moment-ci. Mais il y a une chose qu'aucun chef de parti ne peut battre. Ça s'appelle la volonté de changement. Et François Legault est confronté à cette espèce de blocage dans sa montée, quelle qu'elle soit. C'est qu'à un moment donné, les Québécois, après 8 ans, vont dire, on veut un nouveau visage. On veut quelqu'un, on veut du sang neuf. On a besoin de changement, on a besoin de quelque chose d'un peu nouveau, on a besoin d'un discours rafraîchissant. Et François Legault, qu'il le veuille ou pas, est aussi victime de son âge, de son expérience de 8 ans au gouvernement. Et l'autre élément qu'il faut regarder aussi, c'est que la CAQ a gagné quand le PQ était bas. Et j'ai eu cette discussion-là avec des amis très récemment, puis on se disait, est-ce que vraiment la CAQ peut emporter une élection si le PQ est en haut de 30 %? Moi, je pense pas que c'est possible.
Ben moi non
Moi, je pense
plus.
qu'il y a un vase communicant.
Moi non plus, puis je t'explique pourquoi, puis tu me donneras ton opinion après, Victor, mais t'es François Legault provient du PQ. Les grands ténors de la CAQ proviennent du PQ. Je pense à Bernard Landry, par exemple. Jean-François Roberge est un souverainiste, c'est certain. En immigration, il prend une grande place. Alors, le fait qu'il y ait eu une frange bleue très forte à la CAQ au sein de la députation fait en sorte que si le PQ monte, oui, cette frange bleue-là reste comme premier ministre, comme député, mais les militants, eux, retournent à la maison.
C'est ça. Puis l'autre chose, c'est que, tu sais, on se parlait entre libéraux puis entre fédéralistes, parce que je l'assume, moi, je suis fédéraliste, puis je suis d'origine libérale. Et on se disait, on ne le croit pas nécessairement quand il dit qu'il est plus souverainiste. On ne sait pas où, dans quel camp il serait dans un référendum, tu sais. Est-ce qu'il serait dans le camp du non ou dans le camp du oui? Aujourd'hui, il y a la bonne réponse. Il dit, je ne serais pas dans aucun camp. Si je t'élis, il n'y a pas de référendum. Parfait. C'est ça la réponse politique à avoir. Mais il n'y a personne qui sait dans quel camp il serait à 100 %. Rappelons quand même que Mario Dumont était dans le camp du oui en 95. Et la CAQ, ça vient de la DQ. Donc, c'est ça aussi qui fait que aller grappiller des points chez les fédéralistes, c'est très compliqué pour François Legault, alors que c'était beaucoup plus naturel d'aller grappiller des points dans le vote péquiste. C'est pour ça que je pense qu'il y a une espèce de plafond à 19-20 %. Ce que ça démontre aussi, c'est regarder entre les conservateurs, les libéraux, puis la CAQ, ben, il y a 60 % de vote.
En plein
Ça veut
ça.
dire qu'il y a un de ces partis-là qui peut encore gagner parce qu'il y a un an d'une élection, il y a un potentiel.
Information d'ambiance à te demander. Victor Henriquez a travaillé derrière des partis politiques. Bon, tu parles de comment sont briefés et tout ça. Est-ce qu'ils aiment se faire challenger en onde? Admettons que c'est poli. Est-ce que ça les dérange ou ça va les rebuter de revenir en entrevue? Parce que la
Ça dérange leur
complaisance.
staff.
Leur staff, OK, parce que la complaisance, ça ne doit pas être mieux quand tu es un politicien. Tu veux avoir à parler des vrais enjeux?
T'as 100 % raison. Puis le staff aime pas ça parce qu'ils aiment avoir le... Tu sais, on est tous une gang de contrôlants quand on fait ce métier-là. Alors, on aime avoir le plus de contrôle possible. Dans un monde idéal, on choisirait chacune des déclarations. Et il y a beaucoup d'heures que beaucoup de gens ont passées en arrière des bureaux à préparer chacune des réponses, puis à anticiper vos questions. On essaye, dans la communication, d'anticiper. Quand on prépare nos porte-parole, on essaie de dire, OK, ben, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont te demander? Puis en même temps, sérieusement, on y arrive assez souvent parce que le staff a écouté probablement beaucoup d'entrevues de ta part, Jeff, et de ta part, Pascal, avant de faire l'entrevue
C'était ma
avec vous.
question. Est-ce qu'ils ont étudié nos portraits?
Ben oui, on a étudié vos portraits, puis on s'est dit, hey, Pascal, attends, elle a ce genre de style-là, puis Jeff, il a ce genre de style-là, puis quand elle pose des questions, faites attention à ci, à ça, puis on pense que dans ce qu'ils ont exprimé dans les derniers temps, ils vont s'en aller dans telle direction. Donc le staff a beaucoup préparé, ce qui fait que quand on sort un peu du champ gauche, puis qu'on challenge un peu plus, le staff aime moins ça. Au niveau des chefs, ce sont des gens qui sont habitués à débattre. Et je pense que, moi, je pense qu'ils sont conscients, puis François Legault a beaucoup d'expérience. Moi, je pense qu'il est conscient qu'une entrevue où est-ce qu'il se fait challenger a plus de crédibilité au-dessus des gens qu'une entrevue où est-ce qu'il est complaisant, où est-ce qu'il se fait dire qu'il est parfait.
On le
Les
voit
gens
beaucoup
n'accordent pas de valeur à ça.
par les textos, là. Aussitôt qu'ils trouvent, par exemple, qu'on a été sympathique ou quoi que ce soit sur la réception d'une réponse, tiens, on nous l'écrit. Donc, probablement que les politiciens n'aiment pas tant ça non plus.
Mais moi, je n'aimerais pas.
Non, mais.
Non, mais c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi parce que moi, j'ai un politicien qui m'a déjà dit « Hey, j'aime ça être interviewé par toi parce que c'est respectueux, mais tu me challenges sur plein d'enjeux, puis ça me force à être meilleur. » Donc, j'ai dit « Ben, tant mieux.
Ah, » puis l'ouverture d'esprit fait partie des facteurs de crédibilité. Il y a des études qui ont été faites sur qu'est-ce qui fait qu'un porte-parole est crédible aux yeux du public. Puis une des choses, c'est l'ouverture d'esprit. Donc, comment un politicien réagit à une question difficile? Et quand il réagit bien, les gens aiment ça. Et les gens disent, ah mon Dieu, il est bon parce qu'il s'est fait challenger, mais qu'il a bien réagi. Moi, j'ai trouvé que François Legault ce matin était justement parce que pour bien réagir, il faut être à une bonne place psychologiquement. Hein, il faut être bien, il faut être à un bon moment. C'est là où est-ce qu'on voit la différence aussi à un politicien que ça lui tente de donner des entrevues, puis celui que ça ne lui tente pas du tout. Attendez-vous à ce que Pablo Rodriguez cet après-midi, ça va être compliqué là-dessus. Parce qu'il est dans une position difficile. François Legault était dans une position plus facile. Se faire challenger, ça fait partie de la game. Honnêtement, c'est quelqu'un comme politicien qui n'aime pas ça, change de job parce En politique, tu te fais challenger à tous les jours.
Je termine sur François Legault, Victor, parce que tu nous as demandé comment vous avez cerné François Legault. Puis moi, je t'ai dit, je l'ai senti bien en selle, je l'ai senti confiant. Puis je te l'explique par un court extrait de 18 secondes que je te fais entendre. Il est tellement confiant de sa négociation avec les médecins. Il y a plein de monde qui disent « Vous avez plié les genoux, les médecins encore gagné, ça n'a pas marché pantoute, vous avez tassé Christian Dubé. » Mais quand Pascal le challengeait là-dessus, droit comme une barre, il regardait Pascal, yeux dans les yeux, puis il disait hey, « Stay tuned, tu vas y voir les résultats. » C'est pour ça que je suis maintenant...
C'est pas une invitation à une prochaine question.
Non.
Il m'a regardé.
C'est pour ça que je me dis « Je suis convaincu qu'il est le chef de la CAQ aux prochaines élections. »
Garanti. J'avais des doutes jusqu'à entendre les entrevues qu'il a données, dont la vôtre. Et je suis convaincu qu'il sera chef de la CAQ à la prochaine élection. Il a réussi ce qu'il devait réussir. Regardez, la loi 2, ce n'était pas une bonne chose. La façon que ça a été vendu, ça a été mal fait. Au niveau de la réaction, ça n'a pas été bien réagi. Il avait dit une chose, j'ai besoin de changer de mode de rémunération pour donner des résultats en santé. Puis la réalité, c'est qu'il a changé de mode de rémunération, puis il pense que ça va donner des résultats en santé. Il croit dur comme fer, et très sincèrement, il croit tellement que j'ai envie de le croire. Maintenant, les chiffres vont parler. Tu sais, on va arriver à la prochaine élection, ils disent « Printemps, vous allez voir la différence. » Parfait. Stay tuned, moi, je reste branché, puis je veux voir les résultats. Puis tu sais quoi, c'est une bonne chose pour tout le monde. Il est très fier de son coup, puis il a le droit d'être fier parce qu'il s'est impliqué personnellement dans cette négociation-là. Rappelons-le, ça s'en allait nulle part, c'était bloqué de partout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré le président de la FED, ils se sont assis, ils se sont parlé dans le blanc des yeux. Puis on débloquait la situation. Là-dessus, chapeau, M. Legault.
Mais, il disait, c'est facile en tant que gérant d'estrade d'analyser tout ça, mais quand des gens ne veulent pas négocier puis qu'ils sont fermés, des fois, il faut aller dans le coercitif. Puis c'est ce qu'on a eu à faire, c'est ce que je comprends entre les lignes. Puis c'est sûr que nous, on est un peu entre ceux qui subissent puis ceux qui imposent. Dans le cas de la loi 2, on a plein de textos, on a des gens qui ont perdu des médecins de famille par le volte-face, mais par aussi l'application de cette loi 2-là. Pendant un bout, ben, on allait de l'avant puis on pliait pas. Y a une chose, par contre, qui peut déranger, justement, quand on est commentateur de l'actualité puis qu'on analyse tout ça, entre autres. Je veux dire, les textes de la presse qui parlent de la rémunération des médecins, puis finalement, on se rend compte que c'est pas du tout ce que le gouvernement a calculé. Fait que tu dis, ben voyons que t'as pas calculé ça, etc. Mais il y a quelque chose, par contre, que je comprends de François Legault, c'est de dire, quand on sait plus quoi faire, parce qu'il y a rien à négocier, faut... Lui, il utilise le terme « casser » l'adversaire devant. Je le comprends s'il y avait plus rien devant eux, mais j'ai quand même un malaise avec comment ça a été fait, puis je vois pas comment on va... réussir en continuant de plaider qu'on a bien fait, de gagner le public là-dedans?
Mais je pense que, tu sais, moi, il y a un élément, c'est que moi, je ne leur en veux pas pour le contenu de la loi 2. Moi, je pense que la loi 2 a été, l'atterrissage de cette loi-là a été mal préparé. Moi, je pense que cette loi-là aurait dû être déposée un lundi matin au lieu de la déposer en fin de semaine. Moi, je pense qu'on aurait dû déposer cette loi-là, prendre le temps de l'expliquer aux Québécois puis d'expliquer ce qu'on était en train de faire. Je pense que dans le plan de communication, on a sous-estimé l'affection que les Québécois et l'attachement que les Québécois ont envers le médecin de famille. Le fait que le médecin de famille, là, c'est celui qui prend en santé de notre famille, justement. Puis si tu touches à mon médecin de famille, c'est comme si tu touchais à un membre de la famille. Il y a beaucoup de Québécois qui ont réagi comme ça. Si on l'avait plus expliqué, ce que j'entends aujourd'hui le premier ministre dire, je le comprends, puis il a raison. À un moment donné, quand tu ne veux pas négocier dans le sens de ce que le gouvernement est convaincu qu'il y a la chose à faire, il faut que tu dises stop. Mais il faut aussi que tu expliques aux gens pourquoi. Mm-hmm. Puis moi, je l'ai dit dès le début de cette loi-là, le gouvernement a échoué à expliquer aux Québécois pourquoi chaque élément de la loi était essentiel pour avoir le résultat. Et la réalité, c'est que s'ils nous l'avaient dit, moi, je pense qu'on l'aurait suivi un peu plus. Maintenant, encore une fois, la mémoire collective est courte. Donc, vu qu'il a réussi, c'est très possible qu'au mois d'avril prochain, on ne se rappelle plus des lendemains de la loi 2, puis que si les médecins de famille ont vu 500 000 Québécois de plus, on se rappelle juste que notre médecin de famille est plus disponible que jamais.
En effet, il fait le pari du résultat. C'est exactement ce qu'il nous a dit quand il a dit « Stay tuned, Pascal CV ». Victor Henriquez, on ressaute à Pablo Rodriguez. Il va dire quoi cet après-midi, là? Il va faire une conférence. Ben d'abord, il va parler à son caucus, il va dire qu'il démissionne. Puis après ça, sa conférence de presse, je peux pas croire qu'il va répondre à des questions cette fois-ci. Là. Il va lire une déclaration, puis c'est « Ciao, bye, je m'efface de l'opinion publique tel un Sam Hamad à la Ville de Québec ».
La première chose qu'il va dire, c'est qu'il se défendra jusqu'à la fin de ses jours sur le fait qu'il n'a jamais rien commis d'illégal. Ça, c'est la première chose. Je m'attends à l'entendre répéter ça ad nauseam, parce que la plus grande peur qu'il a, j'en suis convaincu, c'est que les gens pensent qu'il démissionne parce qu'il se sent coupable de quelque chose. Okay?
D'accord,
Ça, c'est la première chose. La deuxième, il va dire qu'il démissionne pour le bien du Parti libéral du Québec et parce qu'il est convaincu que le Québec a besoin du Parti libéral du Québec. Il l'avait déjà dit dans ses discours, vous vous rappelez, hein, le Québec a besoin des libéraux. Il va nous rappeler cet élément-là. Il va montrer ça comme étant un geste altruiste. Et il va répéter, selon moi aussi, le fait que il est convaincu qu'il a fait ce qu'il devait faire dans les circonstances. Il n'y aura pas de reconnaissance de culpabilité. Pablo Rodriguez démissionne aujourd'hui parce que hier, pour la première fois, on a reconnu qu'il y avait eu un geste illégal commis dans sa course au leadership. Pas des rumeurs, pas quelque chose d'anonyme. Hier, on a un homme d'affaires qui a reconnu avoir remboursé des dons faits à la campagne à la chefferie de Pablo Rodriguez. C'est illégal. L'UPAC enquête, le DGEQ enquête. Mais à partir du moment où l'entrepreneur a reconnu avoir fait ce remboursement, il venait d'entacher la course à la chefferie d'une façon qui était ineffaçable. Et Pablo Rodriguez perdait la crédibilité de ce qu'il disait depuis le début. Il disait, j'ai été élu par les membres du PLQ. Et hier, on a démontré, les médias ont démontré, qu'il avait été élu en ne respectant pas les règles du jeu, ce qui fait que ton élection ne vaut plus rien.
Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la politique si on se rend compte à un moment que les équipes derrière nos politiciens peuvent gâcher la réputation d'un politicien?
C'est une excellente question. Pascal, tu as des bonnes questions. Hein. Oui,
Et puis moi,
c'est très possible.
j'ajouterais à ça, Victor, est-ce qu'on peut d'autant plus s'inquiéter parce que ces gens-là sont motivés par l'appât du gain?
Mais pas, tu sais, ils voudront peut-être pas se présenter, on n'aura peut-être pas de candidat d'envergure, il y a plein de choses.
Mais je vais vous raconter un peu comment ça a dû se passer, OK? Parce que c'est assez simple à comprendre. Tu vois, ben, M. Cabral, il dit à la gang de Pablo Rodriguez, hey, moi, je vais appuyer Pablo comme chef du PLQ, je vais organiser un financement chez nous, il y a du monde qui vont donner un financement parce qu'organiser un financement puis avoir un futur chef de parti chez toi, c'est prestigieux. Puis les gens qui font de la politique aiment ce prestige. M. Cabral, c'est un homme d'affaires qui réussit bien, veut montrer du prestige. Ben, il se dit, je vais inviter des amis qui vont venir donner 500 pièces. Tout d'un coup, il se rend compte qu'il n'y a personne qui veut venir. Ou qu'alors que lui, il pensait qu'il y avait bien du monde qui allait venir, il n'y a personne qui vient. Mais là, le chef du PLQ, il s'en vient chez vous, là. Puis il faut qu'il voit du monde. Puis il faut que tu vois que tu es capable d'attirer du monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à ses employés, hey, peux-tu venir à un cocktail à soir? Regarde, il faut que tu fasses un don, mais tu sais quoi, je vais te le rembourser. Et là, il fait ça pas pour Pablo Rodriguez. Il fait ça parce que probablement qu'il a voulu sauver ça, son ego. Et c'est ça le problème. Le problème du pouvoir, c'est que quand les gens le font pour des questions d'ego, pour des questions de pouvoir, pour des questions personnelles, des questions d'orgueil, c'est jamais le bon choix. Les gens qui réussissent en politique, puis c'est la très grande majorité de ceux qui le font parce qu'ils veulent influencer les décisions, parce qu'ils veulent changer les choses. Moi, quand j'ai fait de la politique, je voulais changer le monde. C'est peut-être illusoire de ma part, mais vous savez quoi? C'est ça que j'avais trouvé comme véhicule. Et c'est la très, 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 très grande majorité des gens qui font ça. Il faut avoir une prudence importante. Dans le cas de Pablo Rodriguez, moi, je pense qu'il y a le volet où beaucoup de ces organisateurs venaient d'Ottawa. Pas tous, mais plusieurs. Et peut-être qu'on a sous-estimé le niveau de prudence qu'il faut avoir en 2025 dans un parti comme le Parti libéral du Québec ou dans tous les partis en général. On a été négligent sur certains aspects. On aurait dû passer des messages. Est-ce que, par exemple, des financements chez quelqu'un, c'est une bonne idée? Non, tu sais quoi? Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Puis je pense que la prochaine course à la chefferie, les libéraux devraient mettre une limite à 100 $ pour les dons. Je pense que des fois, il faut que tu t'en rendes compte que quand tu vas trop haut, ben, tu ouvres la porte à des perceptions négatives. Il faut que les libéraux se posent des questions sur la perception que le public a de leur façon de faire du financement. Puis s'ils se posent ces questions-là, tout ce que tu dis, Pascal, dans ta question, est-ce que l'influence des staffs et des mauvaises personnes autour, ben, va diminuer parce qu'on va être prudent sur ces gens-là. Et la réalité, c'est que ça prend un examen de conscience. Et ça, c'est pas Pablo Rodriguez qui doit le faire. Moi, j'ai hâte de voir les règles de la prochaine course. Parce que cette course-là va être regardée de façon ultra attentive par tous les médias, vu qu'ils savent maintenant ce qui s'est passé dans la dernière.
En effet, question pour terminer cet excellent caucus, Victor Henriquez, qu'est-ce que Marois Risky va faire?
Moi, je peux vous dire que Marois Risky, il y a plus grand monde chez les libéraux à qui je parle qui ont nécessairement envie de travailler avec elle. Elle est extrêmement appréciée par le public. Les gens qui nous écoutent, je sais qu'ils l'apprécient. Puis ils l'apprécient parce qu'elle est brillante. C'est une femme extrêmement intelligente. C'est une femme qui est très authentique, qui fait de la politique de la bonne façon. Je peux vous dire que dans les rangs libéraux, personne ne se comprend aujourd'hui pourquoi elle n'a pas dit à son chef ce qu'elle savait. La loyauté en politique, c'est une valeur essentielle. Et l'impression que plusieurs libéraux ont, c'est que Marois Risky, quand elle a appris que des choses illégales avaient été faites, elle a décidé de se mettre en retrait parce qu'elle ne voulait pas nuire à sa réputation. Puis elle avait raison de le faire. Mais de cette façon-là, elle a laissé ses collègues et son chef se débrouiller avec la crise.
Mais si
Et
elle avait
ça, ce
été,
n'est pas accepté.
ouais, mais si elle avait été loyale, est-ce que la crise aurait éclaté?
Convaincu. Je suis convaincu que oui, parce que ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est quelque chose qui aurait éclaté de toute façon. Et il y a d'autres gens qui vont dire que Marois Risky a peut-être cédé le Parti libéral parce qu'elle a fait éclater la crise un an avant l'élection et non pas 3 semaines avant l'élection. Alors là-dessus, il y a des gens qui vont penser ça. J'ai entendu ce matin un analyste dire que Marois Risky serait peut-être la seule qui pouvait sauver le PLQ. J'ai bien hâte de voir si elle décide d'y aller. Elle a le droit de le faire et elle aurait probablement une certaine popularité. Mais je peux vous dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui lui en veulent d'être parti comme ça. Et il y a plusieurs noms qui circulent. On a entendu Charles Millard, Carl Blackburn. Est-ce qu'il y a des gens de l'extérieur? Vous avez parlé du fantasme Guy Corbier, mais il y en a d'autres fantasmes. Ça va être super intéressant. Autour de la dinde, il va y avoir bien des discussions à savoir qui sera, pas le chef du Parti libéral. Rappelle une chose, le chef du Parti libéral serait aussi, en cas de vote du PQ, de gain du PQ, le chef du camp du non. Et ça, je vous l'amène pour pouvoir en parler plus demain. Parce que le chef du camp du non, ça a une valeur patriotique pour les fédéralistes. Et il y a beaucoup de gens qui disent en ce moment, attention, ça ne nous prend pas juste un chef pour la prochaine élection pour le PLQ, ça nous prend quelqu'un capable de diriger le camp du non si on la perd. Ça prend un casting un petit peu plus solide que juste être chef du parti en ce moment.
Sais-tu ce qu'on va faire, Pascal Cévé? On va prendre les paroles de François Legault. Stay tuned. Demain, avec Victor Henriquez, on parle de qui a la stature d'être le chef du camp du non. As-tu de l'allure, ça, comme devoir?
C'est parfait. On se retrouve demain, alors.
Maléfique. Demain, on parle du camp du non parce que Pablo Rodriguez va déjà être rendu dans la légende du Parti libéral du Québec.
Exactement. Et peut-être pas du bon côté de la légende,
Ouais,
disons-le
c'est
comme
ça que
ça.
j'allais dire, pas pour les bonnes raisons. Victor Henriquez, c'est un plaisir. On se reparle demain, mon ami.
Merci, Victor.
Bonne journée. À tout
Salut,
le monde.
merci beaucoup. C'était Victor Henriquez qui fait le caucus pour cette semaine du lundi au jeudi à compter de midi et également pour la semaine du 5 janvier lorsqu'on sera de retour de vacances des fêtes. C'est fou pareil comment. Je la comprends, là, la loyauté en politique, là. Mais c'est fou pareil, Pascal, comment j'ai de la misère à comprendre pourquoi les gens peuvent avoir une si grande aversion envers Marois Risky. Alors que c'est l'équipe à Pablo Rodriguez qui s'est plantée.
Ouais, ben c'est parce qu'il y a des rumeurs de corridor comme quoi c'est une loner, là, c'est plus un loup
En
solitaire en
effet, ça, oui,
politique.
en effet, Anthony nous en a parlé également,
Ouais.
là, Victor nous en parle aussi. Fait qu'à un moment donné, moi, quand plusieurs personnes me parlent de ça,
C'est
ben je me
ça.
dis,
Mais
il doit nécessairement avoir une bonne proportion de vérité là-dedans.
moi, ça me dérange beaucoup, ça, parce que quand on voit des loups solitaires, c'est souvent, puis quand ils vont aller de l'avant puis prendre leurs décisions. C'est des gens qui n'ont pas été mis à la bonne place, entourés des bonnes personnes. Parce que habituellement, dans une équipe, assurément, tu n'auras pas le même profil d'une personne à une autre. Mais pour faire
C'est
une équipe,
clair.
ben, il ne faut pas que ce soit juste le même type de personnalité. Ce genre de loup solitaire-là, il faut que tu leur donnes des projets dans lesquels ils vont mettre à terme, qui vont être encouragés à utiliser, si c'est dans un endroit où c'est plus de la créativité, parfait. Si c'est dans un
Ouais.
endroit où c'est plus des compétences, leurs compétences, il ne faut pas les freiner là-dedans. Tu vas voir l'émancipation professionnelle de la dite personne selon qu'est-ce qu'elle est. Puis comment tu utilises ces qualificatifs professionnels? Mais souvent, on se rebute, hein, parce qu'on dit bah, c'est pas une personne d'équipe, c'est pas ci, c'est pas ça. Au contraire, la personne devient d'équipe quand justement c'est le pion par excellence pour dénouer certaines situations.
C'est ça.
Mais ça prend des leaders intéressants, intelligents. La petite problématique, c'est que j'ai l'impression que François Legault en est un aussi à sa manière, un genre de loup solitaire. C'est quand c'est le leader,
Ben,
souvent il va vouloir mettre ça dans son panier puis avancer un peu
je
plus tout
reviens
seul.
aux fameuses couleurs qu'on parlait, le rouge, le jaune, le vert, le
Oui.
bleu dans vos personnalités. Et rouge, c'est que j'ai un objectif, je m'en vais par en avant et peu importe qui tombe, je me rends à mon objectif. François Legault, c'est un peu ça avec les médecins qui nous exprimaient un
Oui.
matin, là. Il a dit, hey, moi, tu parles là, je m'en vais parce qu'il va y avoir des centaines de milliers de Québécois qui vont avoir plus de médecins. OK, Christian Dubé, tu tombes, tu tombes. OK, la paix sociale tombe, elle tombe. T'sais, il s'est pas soucié de ça. Lui, oui. Il a regardé l'objectif, il est allé. Je pense que Marois Risky, c'est peut-être un peu ça aussi. Elle ne s'est pas soucié de ses collègues, qui allait tomber, qui allait pas tomber, qui allait être pris avec la patate chaude. Elle a dit « Ah ouais, mon objectif, c'est qu'il n'y en ait pas de corruption au sein mm-hmm. du Parti libéral du Québec. Je m'en vais par là. »
Puis ça, puis on n'était pas là, on n'était pas dans les brancards, mais admettons qu'elle avait justement été ciblée comme étant, puis qu'on avait utilisé ses qualités et non ses qualités juste en défaut. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui serait assis avec elle, puis hey, « C'est quoi t'as dans la tête, là, ces temps-ci? » Bien là, je pense que, je présume que, puis c'est sûr que dans mm-hmm. ce cas-ci, tu veux pas que ça s'ébrute parce que tu veux bouger en conséquence, puis que les gens camouflent pas de la corruption ou de la collision, peu importe. Peut-être qu'elle avait pas le choix de le faire comme ça, mais en parlant avec une personne, s'il y avait une personne de confiance, un soldat auprès d'elle, ben il aurait pu jouer en équipe. Mais là, peut-être qu'elle a été isolée aussi. Tu sais, pointer du doigt là, quelqu'un, là, tes collègues ou autres, parce qu'ils sont différents dans la ouais. façon de travailler, finalement, tout ce que tu fais, c'est affaiblir ton équipe. Je pense que c'est ce qui s'est passé au niveau des libéraux.
Un jour, on saura certainement ce qui trottait dans la tête de Marois ouais. Risky.
Ça commence à se rapprocher.
Ainsi. Exactement, parce que là, avec le départ de Pablo, ben, à un moment donné, peut-être que certaines langues
avec
vont
Geneviève
se délier.
Avec Geneviève Heinz qui a signé, en fait, la soirée des enveloppes sans savoir si elle était au courant, par exemple.
Ouais. Exactement. Donc, un jour, nous saurons tout ça. Petit tour d'actualité au retour de la pause. Et on va parler avec l'ex-ministre libérale Christine Saint-Pierre, justement, de cette démission imminente de Pablo Rodriguez et de surtout comment elle voit la suite pour la chefferie du Parti libéral du Québec. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. On est de retour à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1, midi 44. Nous allons aller rejoindre Christine Saint-Pierre, ex-ministre libérale, dans quelques minutes concernant justement cette démission imminente de Pablo Rodriguez. Petite notion de sport avant de passer aux manchettes. Vous rappelez que le Canadien a perdu 4-1 hier contre les Flyers de Philadelphie. C'était le jeune gardien Jacob Fowler devant le filet. Il a complètement gaffé sur le troisième but, laissant la rondelle libre derrière le filet à Matvei Michkov, qui l'a justement refilé à Bobby Brings, qui a marqué son 9e but de la saison. Ça en était cuit pour le Canadien. Prochain match du Canadien à domicile contre les Blackhawks de Chicago. Ça va se dérouler jeudi soir sans Connor Bedard, la vedette des Hawks qui est blessée pour 2 semaines, blessure à l'épaule. Et par la suite, c'est un duel en fin de semaine contre les Penguins de Pittsburgh, samedi au Centre Bell, dimanche à Pittsburgh. Donc, des matchs importants qui vont suivre pour le Canadien de Montréal. Normalement, Jacob Debèche devrait être devant le filet jeudi.
Si vous me permettez d'aller court sur Pablo Rodriguez, il va démissionner. Alors, il est en rencontre à 14h avec les siens, donc ceux du Parti libéral, pour fort probablement l'annoncer. Mais sa décision est prise, ça a coulé dans les médias avant son annonce. Il va démissionner dans quelques heures. Alors, après 14h, il y aura un point de presse. On spécule, mais il devrait faire l'annonce et quitter ensuite. On va suivre ça avec grande attention. On est déjà rendu à se demander, bon, qui peut prendre sa place? On en parle un peu plus tard. Pas d'entente bâclée. Il y a les médecins spécialistes qui veulent que Québec ouvre ses coffres. Bon, vous savez, entente avec les omnipraticiens, mais les médecins spécialistes, eux, veulent pas plier. Ils veulent, oui, régler la chose, mais pas à tout prix avant les fêtes et certainement pas avec n'importe quoi dans le dossier. C'est une lettre qui a été envoyée à ses membres, le président de la Fédération des médecins spécialistes, le docteur Vincent Oliva, qui a promis de continuer à talonner le gouvernement là-dessus. Ils ne sont pas prêts à abdiquer, ils veulent s'entendre. Là est la nuance. Je peux vous parler également d'une nouvelle qui est sortie dans les dernières minutes, en fait, la réforme du Ranceau des loyers en vigueur dès le 1er janvier. Je vous explique, c'est dans le Devoir, la nouvelle méthode de calcul des hausses de loyers sera appliquée dès le 1er janvier. Alors, cette méthode de calcul-là a été implantée par France-Hélène Duranceau. Ça, c'était à l'époque où elle était ministre de l'Habitation et ça a été vivement dénoncé hein, par les associations de défense des locataires. Et maintenant, le nouveau calcul, il est plus simple. Il est basé sur une moyenne de l'indice des prix à la consommation de façon générale sur 3 ans. L'autre modification, c'est que ça ne va pas toucher n'importe où, n'importe comment, mais ça va aussi toucher les appartements rénovés. Donc, à partir du 1er janvier, les propriétaires qui font des rénovations vont pouvoir transférer la facture au locataire en se basant sur un taux fixe au lieu de varier en fonction de l'économie. Hein, la hausse est fixée à 5 % du montant par année. Bref, ça sera amorti sur 20 ans. Petite nouvelle d'ambiance. Une chanson a réussi à se hisser au sommet du Billboard Global 2000 comme étant
vieille chanson.
Oui, comme étant la chanson mondialement la plus importante.
Oh, c'est prélude de temps des fêtes.
Au sommet du classement Billboard Global, c'est devenu un phénomène mondial. C'est le classement des chansons les plus populaires mondialement. Ça vient de sortir. Alors, Last Christmas de Wham. Ça leur a pris plus de 40 ans, près de 40 ans là, après la sortie.
Il y a George Michael là-dedans. Hein?
Oui, c'est la chanson de George Michael.
Je te dis, George. C'est donc bien plaisant. Merci, Pascal CV, de nous faire vivre le temps des fêtes. Et d'ailleurs, si vous voulez nous envoyer 418-971-1021, envoyez-nous vos tunes du temps des fêtes. Là.
Écoute, j'ai pas choisi que ça soit Last Christmas de Wham. Ça aurait pu être une chanson de Rob Zombie, mais c'est
exactement.
Pas le cas. Ça tombe juste bien.
Peut-être pour une dernière journée dans l'actualité, Pablo Rodriguez sera sur toutes les lèvres. Somme toute vraisemblance, il va rencontrer son caucus cet après-midi à distance à 14h et par la suite annoncer sa démission. On va justement parler avec l'ex-ministre libérale de la culture, conditions féminines et des communications, Christine Saint-Pierre. Madame Saint-Pierre, comment allez-vous?
Ça va bien. Ça va bien. Moi, de mon côté, ça va bien.
Excellent. Oui, exactement. Madame Saint-Pierre, vous aviez été une qui avait sur nos ondes, notamment la semaine dernière, puis je vous ai entendu également à l'émission de Mario Dumont sur LCN. Vous aviez critiqué le leadership de Pablo Rodriguez. Donc, est-ce une bonne nouvelle pour le Parti libéral du Québec que la démission imminente de M. Rodriguez?
Bonne nouvelle. Je n'utiliserai pas ce terme-là, mais je pense que ça va être un soulagement. Parce que c'était devenu intenable et le Parti libéral du Québec, les instances avaient de la difficulté à gérer cette situation-là. Le chef lui-même avait de la difficulté à gérer cette situation-là et l'organisation du parti était complètement paralysée là parce que dans un parti politique, il faut travailler au recrutement de candidats-candidates, il faut préparer le programme, il faut également préparer la campagne électorale, faire du financement. Ce sont des tâches qui sont incontournables là, à la veille d'une campagne électorale. Alors, c'était rendu très, très, très difficile pour le parti lui-même.
Mais des fois, on a de la misère à trancher au niveau du parti lui-même et de la personne qui représente le parti. On commence à comprendre et où il y a quand même des rumeurs comme quoi, c'est même pas Pablo Rodriguez, ça pourrait être en dessous de lui. Donc, le parti reste le même si Pablo démissionne. Là, on peut prendre cette situation-là, mais le mettre aussi plus globalement. Est-ce vraiment le visage du leader qui fait le parti?
Ben c'est la tâche colossale qu'aura à faire le parti, c'est-à-dire de faire la distinction entre les enquêtes qui se tiennent, il y en a plusieurs, et qui tournent toutes autour du leadership de Pablo Rodriguez, de sa campagne, de son entourage, et le parti lui-même, parce que le parti a fait beaucoup de travail pour se refaire une image, regagner la confiance des militants, des militantes, regagner la confiance du public, et le parti, bien, il doit faire la démonstration qu'il est capable de reprendre les rênes et de nommer. En fait, il va falloir aussi que quelqu'un qui vienne prendre la tête du parti. Cette personne-là, ben, elle a une tâche énorme, effectivement, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans le parti, faire en sorte qu'il y ait un programme électoral crédible et aller proposer aux Québécois et aux Québécoises une alternative. Et ça, c'est énorme. Et vous avez raison. La personne qui va incarner ça, ben, elle a un énorme travail à faire. Énorme travail parce que dans l'opinion publique, que l'on veuille ou non, l'image du parti est entachée. Même si les faits démontrent que ce n'est pas le parti lui-même qui est sous enquête, mais la campagne au leadership et de tout ce qui a entouré la campagne au leadership de Pablo Rodriguez, dans l'opinion publique, on ne fait pas nécessairement la différence entre les deux. Et c'est ça qui est difficile aussi pour ceux qui sont au parti, les députés et ceux qui militent.
Quels sont les apprentissages que le Parti libéral doit faire de cette expérience-là? Parce que ça a quand même été un vote très serré. Pablo Rodriguez est passé en vrai 52%. Et j'ai toujours eu la certitude qu'il est passé parce que c'était le plus populaire d'un sondage. Mais c'est pas nécessairement le plus populaire d'un sondage à une date X qui devient nécessairement le meilleur chef pour une campagne électorale.
Vous avez tout à fait raison. Moi, lorsque je posais des questions, moi, je me suis pas affichée pour aucun des candidats au leadership, et alors je pouvais poser des questions un peu partout. Et lorsque je posais des questions sur pourquoi Pablo Rodriguez, les personnes qui l'appuyaient me disaient c'est parce qu'il a la plus grande notoriété. Même Marois Ritsky me disait c'est l'homme de la situation, il a de la notoriété, il a de l'expérience, et moi j'avais comme un doute, c'est-à-dire je me disais on peut pas nécessairement baser le choix d'un nouveau chef sur sa notoriété, il faut qu'on base le choix du nouveau chef aussi sur qu'est-ce qu'il propose comme vision du
sur
Québec.
Sur ses compétences aussi.
Mais les compétences, ben ça, il a été quand même une vingtaine d'années à Ottawa, quand même été à la tête de plusieurs ministères, était l'organisateur en chef de Justin Trudeau, qui a quand même gagné avec une forte victoire en 2015. Alors là-dessus, je pense que les gens se disaient, ben c'est quelqu'un qui est capable d'organiser le parti, capable de conduire le parti aux prochaines élections. Mais l'élément aussi était, c'est lui qui a la plus grande notoriété dans tout ce qu'on a devant nous. Et il y en a qui ont voté en fonction de cela. Maintenant, aujourd'hui, bon, on voit que ça s'avère, c'est difficile là, pour lui. Là. C'est quand même un être humain. Là. Pablo Rodriguez, c'est un gars que moi, j'aime beaucoup personnellement. Je l'ai côtoyé dans mes anciennes fonctions de ministre des Relations internationales. C'est un gars charmant. Là. Et son intégrité, à lui... n'est pas remise en jeu, mais peut-être un peu de jugement, parce que lorsqu'il a été question de lorsque c'est sorti dans les médias que c'est un local qui appartient à son épouse, qui a été loué pour sa campagne, il ne voyait pas de problème. Et ça, c'est une question de jugement. Un junior en politique va dire ben voyons, on fait pas ça, là, ça ne se fait pas.
Ça surprend tout le monde. Ça
surprend tout le monde.
Mais dans les conseils, je veux faire du pouce sur ce que mon collègue vous a demandé. Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que le Parti libéral va devoir accepter comme apprentissage de tout cela?
Ben, peut-être que le Parti libéral va devoir se dire, bien, il y a une campagne électorale qui s'en vient. Peut-être que la victoire est pas à portée de main. Il va falloir que le parti, je pense, soit très réaliste, parce que chez les francophones, c'est terrible. Et il avait réussi à monter à 17%. Vous allez me dire, c'est pas un miracle, mais quand même, à 17%, là, c'est vraiment redescendu à 10. Alors, il y a toute une reconstruction qui doit se faire auprès de l'électorat francophone. Puis la prochaine campagne électorale, bien, si la tendance se maintient, c'est le Parti québécois qui va prendre le pouvoir, et ça veut dire qu'il va y avoir un référendum. Alors, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon n'en démord pas, il tient son plan de match, il va y avoir un référendum. Alors, la question que beaucoup de militants se posent, puis j'ai échangé avec beaucoup de monde au téléphone, c'est qui sera le porteur ou la porteuse du ballon du camp du non?
Oui, bien là, ça, c'est officiellement à se questionner. Puis même au niveau du Parti libéral, comme là, TVA Nouvelle vient de sortir une nouvelle comme quoi les candidats qui avaient terminé deuxième, troisième derrière Pablo Rodriguez pendant l'élection du chef libéral, ça, c'est en juin dernier, là, veulent une nomination. Mais là, le scénario semble peu probable. C'est ce qu'a souligné les sources de TVA, parce qu'on dit le nom de Marc Tanguay circule également. Cette fois, l'ex-chef par intérim pourrait bel et bien plonger. Est-ce qu'il a pris goût à ça, au leadership, tiens, du Parti libéral?
Marc Tanguay est un ancien président du Parti libéral et c'est un bon parlementaire. Il a été aussi à la place, en attendant la nomination du chef, là, il a été le chef parlementaire et automatiquement le chef du parti aussi. Alors, ça ne me surprend pas qu'il se pose des questions, à savoir est-ce que je pourrais tenter ma chance. Il a fait un très bon travail comme chef parlementaire. Alors, moi, je pense que il devrait y avoir une course, parce que même si elle est courte, là, c'est pour donner la chance aux militants de s'exprimer et de dire, voici, c'est en cette personne. Vous allez me dire, ils l'ont fait là, il y a 6 mois, puis ils n'ont pas choisi le bon cheval. Là, mais permettre aux militants de s'exprimer, si c'était le parti lui-même, parce que la Constitution le permet, permet là, de nommer un chef. Le comité exécutif pourrait nommer un chef. Peut-être que les militants diraient bien c'est un petit peu autoritaire, là. Vous faites le choix à notre place. Ou il pourrait y avoir un autre scénario, c'est-à-dire c'est pas le parti qui donne cette marche à suivre là, mais que les personnes qui s'intéressent au leadership pourraient dire bon ben on va se rallier tout le monde ensemble derrière une personne, mais selon les informations qui sortent, les camps n'ont pas l'air d'être en mode négociation ou discussion, ils ont plutôt l'air d'être en mode attaque, on se met sur le terrain puis on veut aller chercher la mise. Alors, il y a toutes sortes de questions qui se posent, ça va vraiment être un temps des fêtes au cours duquel ça va être très actif, je pense, dans les officines du parti. Puis les Québécois et les Québécoises vont en discuter beaucoup, j'imagine, autour des repas en famille.
Madame Saint-Pierre, je termine cette entrevue en vous posant cette question-ci. Parmi les apprentissages, est-ce qu'on a appris qu'on ne parachute pas un candidat du Parti libéral du Canada au Parti libéral du Québec?
Ben, ce qui a été parachuté, je pense pas. Je pense que c'est lui qui s'est...
Il avait fait une belle traversée du pont.
C'est quand même un Québécois, mais moi je pense que c'était peut-être les méthodes de faire, mais c'est une autre game, la politique provinciale. La façon de travailler aussi des journalistes n'est pas la même. J'ai travaillé aux deux places, Ottawa, Québec, quand j'étais journaliste. La façon de travailler, la façon dont les ministres gèrent la communication avec les journalistes, c'est rien à voir. Ils sont beaucoup plus à distance à Ottawa qu'à Québec, où ils doivent vraiment répondre là, maintenant, là, tu réponds à la question. Là, tu sais. Alors, c'est pas la même façon. Alors, peut-être que ça, il y a eu un peu dans sa tête, lui, il a peut-être pas compris le fonctionnement comment ça se passe à l'Assemblée nationale. Il va falloir que tout le monde décante tout cela, analyse tout cela, et peut-être que le principal intéressé aussi va faire une sorte d'examen, puis il va expliquer qu'est-ce qui a pas marché dans son affaire, là, parce que manifestement, il ne s'est pas bien entouré. Et je termine là-dessus. Sur la question de financement, la règle d'or, c'est de s'entourer de quelqu'un qui va vraiment, là, surveiller le moindre détail, parce que on ne peut pas laisser la moindre brèche entrer dans une campagne au leadership. Puis c'est arrivé, là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pas été aux aguets et qui n'ont pas surveillé.
Ouais. Merci beaucoup. Hein. Ça nous a fait plaisir de vous parler encore une fois aussi, aujourd'hui.
Ça me fait plaisir de vous parler.
Madame Saint-Pierre, merci. Au revoir. Christine Saint-Pierre, ex-ministre Conditions féminines, culture et communication au niveau du Parti libéral du Québec. Course, rappelons-le, à la chefferie.
Oui.
C'était Pablo Rodriguez en premier.
Oui.
Charles Milliard en deuxième, qui avait devancé de très près Carl Blackburn au premier tour pour râler au deuxième tour contre Pablo Rodriguez. C'était à peu près 1% de différence. Finalement, Charles Milliard a perdu par 4% sur Pablo Rodriguez. Donc, ça nous donne deux candidats qui étaient dans la course à la chefferie très crédibles, Milliard et Blackburn. Deux gars issus du milieu des affaires, ex-président du conseil du patronat pour Carl Blackburn, ex-gestionnaire dans le milieu des pharmacies pour Charles Milliard.
Deux pro-régions, les deux ont fait le tour des régions, mais à côté.
Exactement. Deux camps qui ont ça, s'aiment pas. T'sais, Blackburn est arrivé parce que Milliard avait fait certains commentaires que des gens, il y a eu des chicanes. Et là, arriverait Marc Tanguay dans cette course-là.
Je sais pas ce que je pense de quelqu'un qui se présente comme intérimaire. Puis qui a ensuite fait une course au leadership. Là, c'est pas collé. Il y a quand même eu une autre course au leadership. Mais je vais prendre l'exemple de Pascal Bérubé.
Vas-y donc.
Il est demandé au Parti québécois, mais demandé, recul de quelques années, avant que Paul Saint-Pierre Plamondon soit élu chef du dit parti, il était demandé. Ouais. Il l'a jamais souhaité. Peut-être à un moment, mais il l'a jamais fait. Il était bien dans l'intérim du Parti libre, bien dans Matane Matapédia. Ça a toujours bien fonctionné. Il dessert ce territoire en passant immense avec des votes puis des pourcentages de votes toujours extrêmement hauts. Il est apprécié, il fait sa job.
Exactement.
Il n'aurait pas pu se présenter après avoir été chef intérimaire du Parti québécois non. à un moment donné. Comme
non, de toute façon, quand quelqu'un prend l'intérim, c'est parce qu'il n'ira pas à la chefferie.
Il accepte de ne pas aller à la chefferie.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que Marc Tanguay avait pris l'intérim à l'époque à la place d'une Marois Risky ou d'un Monsef Déragé, parce que Marois Risky et Monsef Déragé réfléchissaient à la possibilité de se présenter.
Exact. Donc, moi, il y a une affaire que j'analyserais là-dedans. Est-ce que Marc Tanguay risque de se faire élire à la chefferie?
Ouais.
Point d'interrogation. Parce que c'est pas parce qu'il a pris goût et que l'intérim s'est bien passé pour Marc Tanguay que ça va bien se passer au leadership d'une équipe à la tête
c'est
d'un parti.
Sûr.
Ça peut être complètement biaisé.
Par contre, compte tenu que le Parti libéral, tu sais, là, je pense de l'autre côté de la médaille, vient de vivre une chicane, une crise interne comme ils n'ont jamais vécu. Ils ont besoin d'un rassembleur. Vu que le clan Milliard et Blackburn sont chacun sur leur position, c'est peut-être là que Marc Tanguay peut venir tirer son épingle du jeu.
Un genre d'agent neutre là-dedans.
Ouais.
J'entends.
Je suis certain qu'il y a peut-être des gens dans le caucus qui disent « Hey là, Marc, quand tu nous gérais, ça allait bien, puis on montait dans les sondages, puis il y avait une unité. Or, pogne donc le leadership. »
On va acheter la paix. L'affaire, si ça se passe comme ça, parfait, ça lui met un potentiel de réussite de plus dans la poche.
Oui.
Mais souvent, ce qui se passe avec les chefs intérimaires, c'est qu'il y a un genre de laisser aller au sein du parti. Hey, il est là, il prend l'intérim, il est donc bien fin de le faire. En plus, c'est pas un adversaire à la course au leadership parce qu'il se présentera pas à la tête. Fait qu'il y a souvent des passe-droits pour un chef intérimaire.
Je suis d'accord.
Il y a plus d'appréciation.
Ouais, il est pas dangereux,
Il est pas dangereux.
Ouais, c'est un bon
plus,
point, ça.
Ben, souvent, s'il y a un chef intérimaire, c'est qu'il y a une petite crise. Fait qu'on est redevable envers celui qui a pris l'intérim.
Ouais.
C'est pour ça que je dis que ça sera pas le même portrait s'il se présente à la chefferie.
C'est sûr.
Mais effectivement, il est plus neutre que l'un des deux soit Blackburn et Milliard, pour lesquels ça a autodivisé le parti. Là.
Tu sais ce qu'on va faire, par exemple? Marc Tanguay, nous toujours ça, j'en avec nous autres à Boulevard.
On va l'appeler?
Ben, on va essayer d'avoir
Tanguay,
une petite entrevue avec Marc Tanguay. Hein? Marc Tanguay, on va vous laisser gérer ça, M. Tanguay, aujourd'hui. Là. On va peut-être vous laisser respirer demain, mais vendredi, venez donc en onde avec nous. L'invitation est lancée. Courte pause, Pascal. Par la suite, on va revenir avec quelques manchettes, mais je veux surtout qu'on parle de la fille du réalisateur qui s'est fait assassiner avec sa femme par son propre fils. Donc, c'est-à-dire Romy Rayner, parce qu'elle avait sur Instagram posté des photos début décembre de vacances en famille dans le sud où sont en train de se baigner, puis la vie est belle. Et là, sous ces publications-là, elle reçoit des commentaires haineux.
Des menaces, des commentaires
Des menaces
haineux.
Des partisans de Donald Trump.
Oui.
Je veux qu'on en parle au moins un bon 4-5 minutes juste pour démontrer aux gens à quel point c'est dangereux, tes propos haineux.
Je suis d'accord. Puis en plus, envers quelqu'un qui n'a rien à voir avec son... Tu sais, c'est son père, là. C'est son père, un homme assassiné. On parle d'une tragédie. Un des suspects, c'est son propre frère. Donald Trump, qui est déjà en train de se faire lancer des roches parce que les propos qu'il tient suite à la mort tragique de quelqu'un sont inappropriés.
Exactement.
Et elle ramasse en plus la vague de front.
En plein ça. À quel point, lorsque tu es un leader d'une communauté, d'un pays, d'une province, tu te dois justement d'avoir des propos qui sont toujours respectueux envers les gens. Donc, on parle de ceci après cette courte pause à Boulevard 102.1 à l'émission d'En Jase.
Ouh, excusez-nous, on a un petit fou rire. Hey, mon Dieu, quel fun ce fou rire-là. Il fait du bien. Il fait du bien aussi parce qu'on sent léger quand vient le temps de faire des grosses transactions, de gérer quelque chose dans notre vie qui prend du temps, qui prend de la place, qui est stressant. On a envie d'avoir un fou rire léger comme ça puis se dire « Ah, mon Dieu, que ça fait du bien faire affaire avec les vrais. » Ben Emmanuel Amantia, c'en est un. Emmanuel Amantia, c'est le nom que vous devez retenir si vous voulez vendre votre maison, si vous trouvez qu'elle est trop grande, qu'elle est trop petite, si vous voulez un condo, si vous voulez quitter votre appartement, si vous voulez vous peut-être retourner en appartement aussi. Vous avez des plans en immobilier, Emmanuel Amantia. C'est 32 millions en volume de vente, 70 transactions juste en 2025, puis un taux de satisfaction client de 100%. Pourquoi? Parce qu'on travaille fort. C'est un courtier Remax, il est connu pour autant son marketing punché, ses visuels qui sortent du cadre, que son service qui est taillé sur mesure selon vos besoins, votre personne, votre famille, peu importe votre projet. Il est partout en plus, donc pas de contraintes. De Neuville à Loretteville, de Sainte-Brigitte à Lac-Saint-Charles. Aussitôt que vous voyez un panneau bleu et rouge qui se plante, bien, il n'est jamais loin. Pourquoi je vous en parle? Bien, c'est parce qu'il maîtrise autant les chiffres que les émotions, autant les clauses légales que les vidéos virales. C'est un humain très professionnel. Il est un entrepreneur pur et dur, c'est un gars de terrain, c'est un créatif. Donc, si vous avez un projet, moi, j'hésiterai pas, parce qu'entre deux négociations musclées, il va vous appeler, il va prendre votre pouls, il va être là pour vous, et ça va avancer. Vous allez avoir un fou rire, comme Jeff et moi, on vient d'avoir, parce que vous allez avoir la tête légère. Le courtier qui fait bouger le marché, Emmanuel Lamantia.
Cet hiver. On en jase à Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
OK, oui, merci de nous choisir au 102.1 Boulevard. Merci de choisir l'émission On en jase. On est très heureux de nos résultats. On est content de l'interaction qu'on a avec vous. 418-971-1021. Pierre qui nous écrit, Pascal. Moi, je pense que ça prend quelqu'un de nouveau, Milliard ou Blackburn ou autre, si le PLQ espère battre le PQ. Donc, pour Pierre, un Marc Tanguay, ce ne serait pas une bonne solution pour okay. le PLQ. C'est une belle observation. Honnêtement, c'est vrai qu'avec un vent de renouveau, des fois, ça peut aider. Des fois, le vent de renouveau prend un petit peu plus de temps. Tu sais, je prends l'exemple de Paul Saint-Pierre, Plamondon. Ça a quand même pris 4 ans avant que le jello pogne, là, puis qu'il commence à être populaire. Ouais. Il avait passé proche d'être défait dans son propre comté aux dernières élections générales.
Ben, des fois, c'est pas le nom, c'est le parti. Des fois, c'est pas le parti, c'est le nom.
C'est ça. Ouh! Non, c'est vrai. C'est jamais une science exacte. Tu as entièrement raison. Pascal, durant le temps des fêtes, on a une superbe programmation. Puis toi, tu vas y être en tabarouette, pas à peu près.
Toi aussi, je t'annonce tout de suite parce que souvent, quand je suis là, t'es là, mon Dieu, forcément.
Je le sais. Mais tu sais, t'as monté le Kilimanjaro, puis là, on te dit, hey, monte-nous donc au 5e étage de la radio à chaque jour du temps des fêtes.
Oui, je suis partie pour mieux revenir. Tiens.
Exactement. La semaine du 22 décembre, mais 22, 23 et 24 décembre, le matin, à compter de 7h, ce sera moi avec Pascal Cévé et Mathias Turcotte dans L'actualité ne prend pas congé. Peut-être que ça va être un petit peu plus relax. Par exemple, maintenant que Pablo a décidé de partir, sait-on jamais. Il y a le point de max de 11h à 13h et les meilleurs moments de Gravel dans le retour avec Audrey Pinchot. Il y a un Gravel du temps des fêtes le 24 décembre. 25 au 28, on est plus musical. Il y a Dan Caron qui est là avec son garage, le boulevard du rock avec Colosse, Max Larouche est là avec nous pour le boulevard du rock de Noël. On a aussi le Rock and Chill de 7h à 10h qui continue la fin de semaine, c'est-à-dire samedi le 27 et le 28. Et pour la semaine du 29 décembre, ben Pascal, t'es là avec Mathias le matin de 7h à 10h. On va avoir du boulevard du rock en après-midi avec Colosse et pour le jour de l'an, le 1er janvier, Max Larouche va être avec nous dans le boulevard du Rock. Il y a encore des garages à Dan, Gravel du temps des fêtes. Et la fin de semaine, bien, c'est le Rock and Chill et la programmation régulière qui reprend. Et nous, on est de retour le 5 janvier, puis on va être de retour en mode duo comme on est là, Pascal, c'est-à-dire le matin avec Max Larouche, parce que Marceau va être encore en vacances, puis on en jase, fait qu'on va se reclaquer une belle semaine de radio.
Absolument, on sera en poste pour vous. Si vous avez des demandes spéciales, 88-971-1021,
okay, oui.
On est déjà en train de préparer justement vos émissions pour vous accompagner, puis on est très ouvert. Un invité, une invitée, que vous êtes habituellement ouais. Ben là, avec la politique, on sort pas du cas. Là, on aimerait avoir telle personne, on veut parler tel sujet. Mm-hmm. C'est le temps, la parole est à vous, 88-971-1021.
Vraiment, pour un auditeur, les carottes sont cuites pour les prochaines élections pour le Parti libéral du Québec. Ils doivent penser à plus long terme. Je suis d'accord. C'est pour ça que sûrement un gars comme Charles Milliard, qui représente plus la jeunesse que les militants, l'aile jeunesse du Parti libéral est derrière lui, selon moi, pourrait faire un excellent candidat. Pascal, on le sait, quand le réalisateur Rob Reiner est mort, Donald Trump a écrit « La mort du cinéaste est due à la colère qu'il a suscitée chez d'autres avec sa névrose anti-Trump, qu'il appelle Trump Derangement Syndrome. » Et là, y a des gens qui ont commencé à les fouiller dans les publications de la famille, notamment de Romy Reiner, ils sont tombés sur une publication où on la voit avec son père dans le sud, sont en train de se baigner dans l'océan et elle a écrit « Reconnaissance pour ma famille, la santé et les abonnés de tous les âges, pas reconnaissante pour le président ni l'État de notre pays. » On le sait, Rob Reiner était très critique des politiques de Donald Trump. Mais Pascal, ce qui a suivi est tout simplement abominable parce que il y a des personnes qui sont allées jusqu'à insulter sa famille. Il y a un internaute qui a écrit « Nous sommes reconnaissants pour le président Trump. Il est une bonne personne et un père qui a élevé des enfants merveilleux. Pas comme des accros à la drogue qui tuent leurs parents », en faisant référence justement à son frère qui a tué ses parents. « Wow! Qui a tué ton père et ta mère? Pas le président », a noté un autre abonné. Le président ne fait que son travail. Romy, je suis désolé pour ta famille. La haine amène la haine. Tout cela est très triste, a ajouté une autre femme. Ouf, je trouve ça dur pour la jeune femme qui a perdu ses parents, puis qui a perdu par le fait même son frère, parce qu'on s'entend, son frère va aller en prison à vie. Donc, je trouve ça dur que des gens vont revoir des publications, parce qu'on s'entend, là, Romy Rainer n'a pas mis cette publication-là dans sa page Instagram en disant « Regardez-moi, là ». Ils sont allés fouiller dans son compte pour pouvoir, après ça, y aller de commentaires haineux. On s'en va où, Pascal CV, quand on a des gens qui font ça?
Bien, je pense que c'est un exemple par excellence de la division actuellement qui est créée aux États-Unis, qui est créée malheureusement peut-être encouragée suggérée par Donald Trump en ce moment. Les mœurs sont volatiles. Hein? Quand vient le temps de défendre M. Kirk, qui est décédé en fait par les prises de parole qu'il faisait, il est décédé par ses mots. En fait, il y a des gens qui étaient en désaccord, qui étaient beaucoup plus de gauche, qui détestaient ce que faisait Kirk. Donald Trump était tout feu tout flamme en disant « Personne ne doit mourir de ses opinions politiques. On doit déplorer cela comme étant une prise de conscience importante puis surtout un acte tragique qui est
criminel. » Et avec raison, c'est vrai que personne ne doit mourir pour ses opinions politiques dans notre démocratie. Là.
Et on pouvait quand même déplorer tout ce que ça faisait comme haine actuellement. Le fait de, des fois, aller choquer, brasser... Mm-hmm. certaines personnes au niveau politique. C'est pas normal qu'au niveau politique, on soit fâché à un point où on ait envie de commettre des actes répréhensibles, avoir des menaces cinglantes envers quelqu'un, qu'on passe pas à l'action. Mais c'est la même chose dans ce cas-ci. Bon, la jeune femme, comme n'importe qui, a fait valoir ses opinions sur sa page Instagram. 27 ans. Moi, c'est là où je me dis pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui se posent la question aussi. 27 ans, jeune fille qui vient de vivre un drame, comme tu dis, perdre ses parents, assassinée sous les mains de son propre frère. C'est vraiment tragique. Puis là, de se dire, ah, parfait, t'as écrit ça, on t'haït, on haït ta famille, ton père devait mourir. Je comprends pas où est-ce que ça en va l'humanité là-dedans. Il y a personne qui se positionne dans la peau de l'un ou de l'autre, que ce soit dans la peau de la veuve de Kirk lui-même, de l'enfant de Kirk.
En effet.
Autant que dans la peau de cette jeune femme-là, Romy Rainer. Je me demande à quel moment on a oublié de réfléchir, on a oublié d'avoir un cœur. Cette jeune femme-là n'a pas besoin d'avoir une... foule de commentaires, de menaces agressives, même très agressives sur son physique aussi. Ça va dans tous les sens.
Exactement. Elle vit un très grand deuil et c'est une responsabilité qu'on a en tant que société de s'élever au-dessus du débat politique lorsque la situation le demande. Et c'est surtout une responsabilité que nos dirigeants ont. Et dans ce cas-ci, Donald Trump, malheureusement, fait de la politique partisane pour deux drames. Parce que je reviens à Charlie Kirk, ce que tu disais, il a fait finalement de la politique partisane. Il ne s'est pas élevé au-dessus de la masse pour dire aux gens « Hey, regardons ça d'un œil différent, calmons-nous tout le monde. » Non, Charlie Kirk est devenu le martyr des républicains. Et là, bien compte tenu que c'est quelqu'un de démocrate qui a été assassiné, bien, il a été assassiné parce qu'il est contre Donald Trump et il se permet ce genre de commentaires-là. C'est pas digne du tout d'un président. Moi, je ne veux pas de dirigeant politique de cette envergure-là.
J'ai beaucoup de la misère avec des ennemis aussi au niveau du débat. On ne devrait pas être ennemis. On devrait voir ça comme étant une chance, en fait, d'avoir des gens qualifiés à débattre contre nous, finalement. C'est une denrée rare. C'est quelque chose qu'on devrait chérir. Mm-hmm. Pour Donald Trump, c'était le cas. Je veux dire, dans les propos, c'est une chose, mais aller applaudir une mort, en plus aussi tragique, c'en est une autre. Tu sais, dans des commentaires, on voit, je suis personnellement reconnaissant envers le président Trump et aussi reconnaissant pour la nouvelle à propos de ton père et de ta mère. Ça, c'est un homme qui a osé écrire ça. Ah. Heureusement, je me console par d'autres messages et c'est ça que je souhaite voir de plus en plus dans notre société. Puis j'espère que c'est ce qu'on va vous souhaiter voir dans le terme de retour des États-Unis. Mais j'ai voté pour Trump. Ton père est un acteur et un réalisateur très talentueux. Je n'étais pas d'accord avec ses opinions politiques, mais ça ne veut pas dire que c'était une mauvaise personne. Ni lui et ta mère méritaient les atrocités qu'ils ont vécues. J'endosse pas le commentaire que Trump a publié. Ils auraient dû garder le silence et ne rien dire. Je garde ta famille dans mes prières. Ça, je suis heureuse de le lire.
Vraiment.
Il y a encore de ça. Puis il y en a qui osent se prononcer publiquement. Malgré tous les commentaires négatifs, des fois, on va passer vite pour faire comme ça. Ça fait pas de sens, mais d'avoir un moment de lucidité puis de l'écrire pour essayer de faire résonner ça chez la jeune fille, je félicite la personne.
Et surtout que Rob Rainer avait déjà justement tenu des propos sur les médias sociaux dur envers Charlie Kirk en raison de ses visions politiques qui n'étaient pas du tout celles de Rob Reiner. Et je remercie Mylène là, qui nous a justement texté au 418-971-101 pour nous rapporter ceci. Et j'ai ça devant moi. Mais quand Charlie Kirk est décédé, Rob Reiner a fait une publication en disant qu'aucune personne ne devrait décéder pour leurs opinions politiques. Alors, en plus...
Il avait dénoncé l'assassinat de Charlie Kirk.
En plein
Kirk.
Ça. Donc, en plus, Donald Trump s'attaque à quelqu'un qui avait réussi, malgré des différences d'opinion politique, à s'élever au-dessus de la masse et à décrier ce qui est arrivé à Charlie Kirk, qui est un adversaire politique pour Rob Reiner, même si les deux ne faisaient pas de la politique, on s'entend, dans leur idéologie politique et dans leur idéologie de qu'est-ce que devraient être les États-Unis.
Je pense pas qu'on doit faire la morale à qui que ce soit, mais il y a clairement quelque chose sur lequel on doit se positionner, c'est notre rapport personnel en société face à ces choses-là. Est-ce que je devrais prendre un pas de recul, pas m'en mêler? Est-ce que je devrais spreader de l'amour? Tu sais, kill them with kindness. Là. Tu l'es avec la gentillesse.
Ouais, c'est
tu
vrai.
L'es étant une expression. Je pense que c'est la chose que j'aime le plus. Quelqu'un qui te dérange, quelqu'un qui décide de te portrayer d'une... On déparle un peu. Là. Ça fait beaucoup d'heures de radio pour nous depuis 2 semaines. Là. Puis je sens qu'aujourd'hui, c'est pire que d'habitude. Merci de me suivre, de m'aimer et de m'entendre.
Je te suis.
Mais,
vas-y.
Tu sais, souvent, je viens qu'à réfléchir sur ma propre personne, Jeff, en disant, dois-tu laisser aller le débat ou apporter un peu de gentillesse, un peu de nuance supplémentaire? Je me dis, ben, par ma job, j'ai beaucoup la chance de le faire. Je fais le plus souvent possible. Parce qu'on est un acteur non négligeable au personnel, peu importe ce qu'on fait dans notre vie, de la radio ou pas, là, dans des micro-changements à ce niveau-là. Si on se tait et on continue de prendre un pas de recul, je sais pas à quel point on n'a pas à se regarder dans le miroir aussi.
T'as raison.
Ça revient au même que si on voit il y a quelqu'un que je connais qui a fait un gros accident de voiture récemment. Puis la dernière chose qu'il se souvient, c'est le nombre de personnes qui filmaient pendant que lui demandait de l'aide.
Hey, ça n'a pas de sens.
C'est là que tu dis, les réseaux
c'est là
ont
que tu
pris
dis,
beaucoup
on est
de place,
rendu
là.
La société. Ouais, puis d'ailleurs, avec son réseau Truth Social, là, Donald Trump s'en permet beaucoup trop. Puis il y a des moments aussi où tu peux ne pas intervenir, que ça va être la bonne décision. Puis dans le cas de Donald Trump, ça aurait été la bonne décision de ne pas publier un truth cette fois-ci. J'en parlais aussi parce que demain, Pascal, on va avoir Luc La Liberté à 12h30 dans notre émission parce que ce soir, c'est Adresse à la nation de Donald Trump.
Oui, Adresse à la nation de Donald Trump. J'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir là-dedans.
Exactement. 21h, il a dit à tous les réseaux, « Hey, c'est pas votre programmation, c'est Donald à l'écran. » Et là, plusieurs personnes se disent, « Ça va être quoi cette Adresse à la nation-là? » Parce qu'il n'y a pas quelque chose de majeur présentement.
Ben, moi, je pense avec le Venezuela. Ouais. Les tensions avec le Venezuela... Peut-être la...
Vanter
peut-être
son bilan aussi.
Oui, peut-être aussi la bataille sur la santé du côté des États-Unis.
Donc, bref, c'est à suivre. Discours de Donald Trump ce soir à La Nation, 21h. Et demain, 12h30, Luc La Liberté va être avec nous. On fait une courte pause à Boulevard 101. Et au retour, c'est Lambert Drainville. Lambert distribue ses fleurs. Donc, il va donner des petites roses à du monde. Puis, il va pitcher des citrons aussi concernant la dernière session parlementaire à l'Assemblée nationale. Vous êtes à Boulevard 101, l'émission d'en jase. Pascal CV.
Monsieur Fortin.
Es-tu une amateur de prix citron?
Les derniers auxquels j'ai assisté, ben c'était au cégep. Je pense pas que c'est crédible. Puis je pense pas que sur la place publique, ce soit des prix que tout le monde souhaite recevoir.
D'après moi, je suis un peu... je dois avoir une double personnalité parce que je suis dans une personnalité de good vibes only. Mais quand on distribue des prix citron, je trouve toujours ça drôle.
Un genre de je te distribue des fleurs puis le pot vient aussi, mais ça veut pas dire que c'est toi qui le reçois dans le front.
Ouais, c'est okay. Ça. T'es un genre de t'as don vin et t'es poche dans ce que tu viens de faire là. Ça doit être parce que je suis capable d'avoir de l'autodérision de moi-même. Donc, ça doit être pour ça que j'aime les prix citron. Il n'y aura pas juste des prix citron là, qu'on va faire avec notre collègue Lambert. Il va y avoir des fleurs aussi. Mais j'ai hâte d'entendre ces prix citron. J'ai hâte de me commettre sur ces prix citron en disant « Ah ouais, t'as raison. »
J'ai l'impression qu'on ne sera pas trop surpris. Non. Parce que, je veux dire, on dirait que c'est évident, ceux qui nous ont fait avaler surette.
Ah ouais, ça se peut fort bien. Lambert Drainville, comment ça va, mon chum?
Bonjour, ma gang de fous, comment vous allez?
Ça va super bien, Lambert Drainville, vulgarisateur d'actualité hors pair sur les médias sociaux. Hey Lambert, avant qu'on passe aux fleurs puis au prix citron, tu t'en vas faire une entrevue avec Pierre Poilievre dans un salon de thé. Là. Explique-moi ça. Là.
Ouais. Ben, je trouve ça le fun. Écoute, c'est son équipe qui m'a contacté. Il fait une tournée d'entrevues au Québec. Ils m'ont ajouté à la liste d'entrevues qu'ils vont faire. Évidemment, moi, j'ai toujours ma touche un peu plus humaine, comique. On se prend pas trop au sérieux. Fait que ce que je leur ai pitché comme idée, c'est, regarde, Pierre Poilievre, il est vu par... Écoute, son taux d'approbation au Québec est à moins 38. C'est le pire endroit au Canada pour lui. Il y a beaucoup de gens au Québec qui le voient comme le grand méchant loup de la politique fédérale. Fait que j'ai dit, quoi de mieux pour casser l'image du grand méchant loup que d'aller faire l'entrevue dans l'endroit le plus rose, probablement à Montréal. C'est un local de thé tout rose avec des assiettes en porcelaine, puis on prend le thé, puis tout. Fait que,
manque juste les chats.
Oui, c'est ça, juste les chats. Je pense que ça va être vraiment drôle, puis avoir des questions un peu plus funnées pour lui. Et également, bien sûr, des questions plus corsées.
Alors, on te souhaite une excellente entrevue, Lambert Drainville, et tu nous en reparleras avec plaisir vendredi. Place aux fleurs et aux citrons de la dernière session à l'Assemblée nationale. Tu nous as sorti des fleurs et des citrons pour chaque parti politique. Si on commençait avec les fleurs, tiens, quelle serait ta première fleur, là, peu importe le parti politique?
Bon, on va aller en ordre là, de députation là, pour rendre ça égal pour tout le monde. Mais c'est ça, j'en ai un pour chaque parti. Tout le monde est égal. Pour la CAQ, moi, mon étoile de la session, c'est France-Hélène Duranceau.
OK.
Ouais, pourquoi? Bonne négociation avec les médecins.
Entre autres, écoute, elle a eu un passage très, très ardu en tant que ministre de l'Habitation.
Oh oui, vraiment.
C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je trouve qu'elle est beaucoup plus à sa place dans ses nouvelles fonctions comme présidente du Conseil du Trésor. Elle s'est fait donner un mandat par le premier ministre de faire le ménage dans la fonction publique après que la taille de l'État ait augmenté de 12 000 dans les 7 premières années de la CAQ. Et en un an, elle a réussi à couper plus que 2 000 postes et également, justement, de prendre le relais de Christian Dubé alors que les négociations avec les médecins étaient dans une impasse. Et l'entente se signera vendredi. Alors voilà, elle s'est fait donner un mandat. Mm-hmm. Elle a livré et pour une première fois depuis que la CAQ est au gouvernement, malgré que ce soit un parti qui promettait depuis leur tout début de réduire la taille de la fonction publique, un élément qui n'était pas parvenu à faire pendant 7 ans, ben elle a réussi en seulement un an à faire diminuer ça. Pour avoir travaillé avec la fonction publique et pour connaître justement la hausse d'effectifs dans les dernières années, je pense qu'il y avait effectivement un petit peu de marge de manœuvre pour une optimisation. Disons ça comme ça.
Libéraux, moi, j'irai avec mon chef d'Éragie, comme la presse l'avait dit. Toi, Pascal Séveuil, qu'est-ce que tu penses que Lambert Drainville a choisi?
C'est un petit peu difficile d'y aller autrement, là, à moins qu'il se tourne vers Marois Risky.
Ouais. Toi, Lambert Drainville?
Non, moi, mon chef d'Éragie aurait été un excellent choix. C'est André Fortin que j'ai choisi, moi, qui a été visible. Je te dirais, mon CEF a fait un super, super travail dans tout ce qui est la commission d'enquête sur le fiasco Saclic.
Vraiment.
Et je lui lève mon chapeau là-dessus. Il a fait un travail de moine. Vraiment, c'était le modèle qu'on veut pour un député de l'opposition. Mais André Fortin, je te dirais, sur l'année au complet, il a vraiment été présent toute l'année, d'abord et avant tout, sur le projet de loi 106. Puis par la suite, ben, il a pris le poste là, récemment de Marois Risky comme chef parlementaire. On continue de critiquer le gouvernement sur la loi 2, sur leur gestion du réseau de la santé. Évidemment, lui, un fier représentant de la région de l'Outaouais, député de Pontiac, et une région évidemment qui est énormément touchée par l'exode des médecins, alors que plusieurs d'entre eux ont pris la décision d'aller pratiquer en Ontario. Alors, je trouve que c'est une valeur très fiable pour le Parti libéral.
Ouais,
il est toujours là. Il est efficace. Il est toujours sur le bon ton. Il est comme assez cinglant, sans tomber dans la caricature, puis sans tomber dans l'exagération. Alors, il est fiable, il est rigoureux. Puis, c'est ça, je trouve que c'est un gars qui est très... C'est ça.
Est-ce que tu juges que chaque parti aurait besoin d'un M. Fortin dans le sens où c'est quelqu'un qui aspire pas nécessairement à les plus hauts, il est très bien dans ses bottines et il fait un travail d'arrière-terrain, si on veut, qu'on voit un petit peu moins au niveau des électeurs, mais beaucoup à l'intérieur du parti et sinon à l'Assemblée nationale?
Oui, je suis convaincu que si tu demandais à n'importe quel des partis politiques, prendriez-vous un André Fortin ou prendriez-vous André Fortin lui-même dans votre formation politique? Je suis convaincu que c'est un oui sans équivoque pour toutes les formations.
PQ, j'aurais tendance à y aller avec Pascal Paradis. Moi, Pascal, c'est sûrement parce qu'on est dans la région de Québec, mais je trouve que c'est un député efficace. Il est sur les dossiers. Par exemple, ce qui se passe avec le Mont-Saint-Anne, c'est lui qui en a parlé en premier. Puis si je pense à Québec solidaire, là, je dirais Gabriel Nadeau-Dubois parce qu'il les a tous laissés tomber. Il a bien fait en tabarouette.
Moi, peut-être qu'au niveau du PQ, je me serais effectivement tournée vers M. Paradis. Tu as tout le temps M. Bérubé quand même, ouais, là, qui se tient et qui tient le fort depuis des années. Peut-être que là, Lambert va prôner cela. C'est sûr que nous, on est dans la capitale nationale, puis c'est vrai que c'est beaucoup à afficher M. Paradis et très disponible en entrevue. Mm-hmm. Ça, c'est bon. Sol Zanetti, je veux dire, il flanche pas, lui. Il reste droit dans la tempête, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il fait encore une tournée des médias. Ce sera peut-être là qu'on va lancer des fleurs.
Moi, je me suis effectivement allé avec Pascal Paradis pour le Parti québécois, probablement pour les mêmes raisons que vous. Puis c'est pas parce qu'il vient de Québec, malgré que ce soit quelque chose de toujours de positif pour moi, évidemment. Mais écoute, il est rigoureux, il est fiable. Tu sais, un peu dans le même créneau qu'André Fortin. T'sais, c'est un gars sur qui on peut toujours se fier, qui travaille ses dossiers en profondeur. Je me rappelle de lui, j'ai en tête ses interventions en pleine nuit pendant l'étude du projet de loi 2 en plein baillon, là, en plein milieu de la nuit. Je le trouvais très bon, très efficace. Et donc, c'est pas le parlementaire le plus expérimenté. Il n'a pas été élu, ça fait si longtemps que ça. Mais déjà, il prend sa place au sein du parti. Puis je trouve qu'il leur amène une grande crédibilité. C'est un gars qui tombe jamais dans les réactions émotives, toujours terre à terre. Alors, mon étoile, ma fleur, va à Pascal Paradis. Et pour Québec solidaire, moi, ça fait aucun doute, là, je vous le dis, là, il n'y en a pas aucun autre qui passait même proche de mon choix, qui s'arrête sur Guillaume Clich-Rivard,
okay,
qui est le nouveau leader du parti. C'est lui qui a été élu dans Saint-Henri-Sainte-Anne en remplacement de Dominique Anglade. C'est un avocat en immigration. Donc, c'est vraiment son dossier de prédilection avec Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé qui quitte tranquillement. C'est comme lui qui s'est positionné comme l'étoile montante du parti. Et justement, là, en tant que critique en immigration, il a bien mis en lumière là, l'explosion des délais, des traitements, des dossiers d'immigration, mais aussi les histoires déchirantes. D'ailleurs, qui font beaucoup jaser ces jours-ci à Québec là, avec Bruno Marchand qui a les deux mains dans ce dossier-là.
Vraiment.
Mais l'abandon, évidemment, par le gouvernement du programme de l'expérience québécoise, le fameux PEC, qui s'est suivi de plusieurs histoires d'horreur de gens qui sont arrivés ici en pensant pouvoir rester et qui, malheureusement, vont devoir quitter. Alors, j'ai trouvé Guillaume Clich-Rivard très, très efficace dans ce type de dossier-là. Et même en tant que leader, là, à la période des questions, c'est évidemment quelqu'un qui a une formation en droit, ça paraît, s'exprime bien. Quelqu'un qui. Un parlementaire qui gagne à être connu.
On termine les fleurs avec chez les indépendants. Moi, je donnerais Lionel Carman parce que c'est vraiment lui qui a réouvert les voies de passage entre les médecins et le gouvernement. Toi, Pascal, as-tu pensé à un indépendant particulier?
Lionel Carman, c'est sûr. Je pense qu'on a eu un genre de. Hey, s'il faut choisir ça entre ma famille et la politique. Mm-hmm. Ce sont mes deux familles, mais je vais aller quand même avec ma famille vraiment de sang. Et ça a permis, effectivement, sûrement, quand même, à François Legault de.
Une prise de conscience.
Oui, c'est ça, à ses affaires.
Oui, je suis à la même place que vous. C'est Lionel Carman, mon étoile, ma fleur de la session pour les indépendants, effectivement, pour encore une fois les mêmes raisons. Il a des principes, puis il n'a pas voulu en déroger, puis il a choisi sa famille avant son parti. Il y a beaucoup de rumeurs qui courent par rapport à son retour au gouvernement maintenant que le dossier s'apprête à être réglé. Donc, il va falloir suivre ça. Je vais être curieux d'entendre si jamais ça se concrétise, quelle est son explication pour le retour. Là.
Mais pour l'instant, c'est M. Garmand qui a mon étoile.
Bon, on se lance dans ma catégorie préférée, Pascal, les prix citron. Puis là, honnêtement, depuis tantôt, je me dis, OK, à qui qu'on donne ça, à qui qu'on donne ça, parce que ça a quand même été une année difficile. Geneviève Guilbeault, pour avoir dit 41 fois qu'elle s'en souvenait pas à la commission Galant.
Aïe, aïe, aïe. Moi, je me prononce pas. Je veux savourer cette catégorie-là.
Vas-y, l'envers.
Ouais, moi, ben, écoute, la commission Galant, c'est sûr que ça... Ça a beaucoup fait parler, puis au niveau de la forme, c'était pas super chic quand les ministres sont passés pour témoigner. N'en demeure pas moins que moi, dans ce dossier-là, ça fait longtemps que ma tête est faite, puis que je mets beaucoup plus la faute de ce scandale-là sur l'appareil bureaucratique, la SAQ, les dirigeants, le conseil d'administration. Les ministres ont certainement une part de responsabilité, mais je pense pas que ce soit quelque chose de majeur à leur niveau quand tu regardes le portrait dans son ensemble. Alors, j'y suis allé pris citron à Christian Dubé. C'était très louable, c'était courageux ce qu'il a entrepris, c'était tout un chantier, aucun gouvernement depuis 50 ans qui a eu le courage de s'attaquer à la rémunération des médecins pour, encore une fois, essayer de garantir un accès à des médecins au plus grand nombre de Québécois possible. Malheureusement, dans la manière, sur la forme, une loi déposée par Bayon en plein milieu de la session, en plein milieu de la nuit, qui était visiblement remplie d'angles morts parce que c'est en suivi après ça. Un paquet de sorties de médecins qui disaient qu'ils perdraient 10, 20, 30 % de leur salaire avec les nouvelles normes. En plus, un système de surveillance avec des enquêteurs dans les milieux de soins qui les surveillent. Bref, puis écoute, sur les communications, on s'en est déjà parlé, Jeff, là, mais quand tu sors ton projet de loi et que tes propres députés sont pas capables de l'expliquer, et que tu es pogné pour répondre en période de questions, que tu vas faire des webinaires, les fameux webinaires.
Les webinaires,
eh bien, c'est tough. C'est très, très tough. Ça va mal à la shop quand tu es pogné pour expliquer ça à travers des webinaires. Alors, l'opinion publique a changé de bord à partir de ce moment-là. Tu as des médecins qui se sont mis à quitter. Tu as des cliniques, des GMF qui se sont mis à fermer. Donc, une loi qui contenait évidemment beaucoup d'angles morts, qui allait beaucoup trop loin. Et pour prendre une analogie sportive, ben, le gouvernement a perdu l'avantage de la glace et a signé une entente un peu à reculons où pratiquement tout ce que la loi 2 contenait a été mis aux poubelles. On en garde, ce qu'on comprend, c'est qu'on garde un 50 % de la rémunération quand même qui va être liée à la prise en charge par patient. Donc, par patient pris en charge et non plus en grande partie à l'acte médical fait. Mais pour le reste, on reste un peu sur notre faim puis on se demande surtout tout ça pour ça.
Oui, exactement.
Tout ça pour ça. Toute cette espèce de chicane qui dure depuis le printemps dernier, tout l'été, le centre Bell qui avait été loué par les médecins, des cliniques qui ferment pour, au final, des gains qui... demeure à prouver.
En effet. Lambert, il nous reste 3 minutes. Fait que pour les prix citron, on va y aller en duo avec quelques commentaires. Moi, libéraux, ben Pablo Rodriguez pour l'ensemble de l'œuvre. PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon pour des sorties où on est très émotif pour rien.
Oui, je suis à la même place que toi. C'est les deux mêmes. Pablo, écoute, on... prix citron pour Pablo pour l'ensemble de l'œuvre. Écoute, aujourd'hui, j'avais la réflexion sur what could have been. T'sais, ce gars-là était a quitté quand Justin Trudeau était au plus bas des sondages, quand c'était clairement un fin de règne pour lui. A quitté le bateau pour traverser la rivière des Outaouais. Et c'est à se demander, avec du recul, avec tout ce qu'on sait maintenant, qu'est-ce qui se serait passé s'il s'était accroché, il s'était présenté avec Mark Carney à l'élection. Probablement qu'au moment où on se parle, il serait ministre encore au gouvernement du Canada. Et là, ben, on sait pas trop si quelle est sa part de responsabilité dans tout ce qui se passe. On ne sait pas trop s'il a été victime des circonstances plus qu'autre chose. Mais écoute, c'est d'un point de vue humain, là, si on veut glisser un mot là-dessus, ça doit être extrêmement difficile pour lui présentement. Ça doit être très difficile pour sa famille. Je cautionne évidemment rien de ce qui est allégué, mais on lui souhaite la meilleure des chances pour la suite. Parti québécois, même chose. Paul Saint-Pierre Plamondon. Écoute, ça va être une année, un gros défi pour lui. Il est le premier ministre en attente. Le PQ est premier dans les sondages depuis plus d'un an. Pour être un aspirant premier ministre, il faut que tu sois capable de t'élever en hauteur. Quand tu as parlé de l'attaque sur comment il a dit ça, la plaventrice, mais la vacuité intellectuelle d'une partie substantielle du milieu culturel, qui sont d'ailleurs des alliés de toujours de la cause indépendantiste, c'était un mauvais coup et il va falloir qu'il apprenne à s'élever, à être en hauteur, à ne pas prendre chaque attaque qu'il se voit lancer dans sa direction comme une attaque personnelle, parce que plus il va avancer comme le gouvernement en attente, ben plus il va en avoir beaucoup de ces attaques-là. Il va falloir qu'il choisisse ses combats. Québec solidaire, Alexandre Leduc, qui est le porte-parole en matière de travail, qui a été l'un des rares à prendre position en faveur des syndicats qui ont paralysé le réseau de transport en commun à Montréal. Écoute, ça s'explique mal. Ils ont fait le choix, on le sait, les syndicats de Québec solidaire, ça a toujours été des alliés. Maintenant, dans une situation où ses propres commettants, ses propres électeurs dans Hochelaga n'étaient pas capables de se rendre au travail, n'étaient pas capables de se rendre à l'hôpital, a préféré choisir, disons, le dogmatisme, ou à tout le moins le principe des syndicats plutôt que de défendre ses électeurs. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés avec ça. Chez les indépendants, j'en ai deux qui mangent un peu la claque pour la façon avec laquelle ils ont quitté. Vincent Marissal, qui a milité pour ce parti-là pendant 7 ans, finalement approche le PQ alors que ce gars-là n'a jamais été un grand porte-parole de la cause indépendantiste au courant de ses années comme député. Et là, a quitté avant de se faire mettre dehors. Et au passage, a lancé toute sa gang avec qui il a fait équipe pendant plusieurs années en dessous de l'autobus. Ça manquait beaucoup de classe, la manière avec laquelle il a quitté. Et la même chose pour Maïté Blanchette-Vézina, qui a quitté en plein caucus en insultant ses anciens collègues. Et depuis, elle joue à la belle-mère dans les médias en parlant, entre autres, de discussions qu'elle avait eues à l'époque où elle était ministre avec M. Legault, qui était à ce moment-là sous le couvert de l'anonymat. Pas de l'anonymat, mais sous le couvert de... Tu sais, qui étaient des discussions privées. Ouais. Je suis pas un grand fan non plus de sa façon, de la façon avec laquelle elle a quitté le parti et de la façon dont elle se comporte, ou dont elle s'est comportée, je dirais, dans les semaines qui ont suivi son départ. C'est moins pire depuis. Mais beaucoup, beaucoup de misère avec ces deux départs-là et la façon dont ces deux députés-là l'ont fait.
Je comprends ton point de vue, Lambert Drainville. On se reparle vendredi pour nos souhaits 2026 en politique.
Yes, sir. À vendredi, la gang.
À vendredi. Salut. Lambert Drainville. Merci beaucoup, Lambert Drainville. Excellent vulgarisateur politique qui va faire une entrevue avec Pierre Poilievre, oui, dans un salon de thé.
Oui.
Pascal, ça va être déjà tout pour nous aujourd'hui.
C'est terminé, mais...
Terminé.
Allez, demain matin.
Ouais. Allez réécouter sur blvd.fm l'entrevue qu'on a faite ce matin avec François Legault. D'ailleurs, demain matin, Pascal Paradis sera avec nous aux alentours de 7h25 pour commenter le dossier du Mont-Saint-Anne, parce que peut-être qu'on va avoir le rapport ce soir qui devrait être catastrophique pour la compagnie RCR. Luc Laliberté avec nous demain midi et demi pour revenir sur l'annonce à la Nation de Donald Trump. Le retour de Gravel suit à l'instant même. Passez une superbe fin de journée sur nos ondes à Boulevard et on se reparle demain matin 6h. Bye bye, guys.
Bye.